Alors, ce que je voudrais vous présenter aujourd'hui, c'est d'abord l'analyse et un début d'une version particulière de cette optique, hein, celle de l'assimilation, de la proximité, de l'immanence. Cette interprétation, c'est celle que l'on trouve chez les théoriciens qui se réclament de ce que l'on appelle la théorie du système monde. Alors, la théorie du système monde, il faudrait peut-être même dire plus les théories du système monde, nous savons tous à quoi, en très gros, cela peut correspondre. C'est quelque chose qui, historiquement, dérive des travaux historiques de Fernand, hein, de l'historien français Fernand Rodin, mais qui a trouvé son expression la plus dans les écrits, dans la pensée du sociologue états-unien, du sociologue historien états-unien, Immanuel Wallerstein, hein, qui est encore bien vivant. Alors, la théorie du système monde, ou les théories du système monde, elles dérivent, me semble-t-il, d'une double décentrement. Elle s'intéresse à la nature du capitalisme, elle cherche à percevoir les traits propres à ce que l'on appelle capitalisme, mais pour arriver à cette vision qu'elle croit plus juste, elle opère donc le décentrement, d'abord un décentrement de type chronologique ou historique. Hein. L'idée, c'est que le capitalisme contemporain, quelle que soit la manière dont on l'aborde, n'est qu'une phase particulière d'un développement, et que reconstituer l'ensemble de ce développement historique, de ces mutations du capitalisme, de cette approche du capitalisme sur la longue durée, c'est en quelque sorte observer les choses au bon endroit, donc décentrement chronologique par rapport au présent, à ce que nous connaissons du capitalisme. Et puis, le deuxième décentrement, il est peut-être connu, et celui qui, d'une certaine façon, a peut-être le plus marqué la pensée contemporaine, c'est un décentrement que l'on peut dire géographique. L'idée, c'est que tout ne s'est pas passé en Occident, et que pour comprendre le développement du capitalisme, fut d'abord une chose occidentale, et même d'abord une chose européenne, et même d'abord une chose ouest-européenne, eh bien, il faut resituer ces avancées, ces développements du capitalisme dans un contexte large, dans un contexte mondial qui implique des rapports économiques, des rapports politiques, des rapports militaires, des rapports culturels aussi, et d'autres régions du monde, que ce soit par exemple avec l'Amérique ou avec les zones avec lesquelles on entretient des relations économiques inégales. Il y a l'idée d'une polarisation du monde entre un centre et une périphérie qui est victime de rapports et d'exploitation, d'utilisation ou de soumission. Donc un double décentrement chronologique, historique si on préfère, et géographique spatial. Alors, question dont je parle, hein, question d'histoire des sciences sociales, qu'est-ce que la théorie du système monde et qu'est-ce que Immanuel Wallerstein en particulier a dit de l'Union soviétique, sachant que l'essentiel de son œuvre s'est développé à une époque où ces soviétiques existaient encore. Alors, avant la chute de l'Union soviétique, avant 1991, Wallerstein a toujours défendu une position que l'on peut qualifier de contre-intuitive. Pour l'essentiel, selon Wallerstein, l'existence d'un bloc socialiste, dont l'Union soviétique est le cœur, hein, l'existence d'un bloc socialiste ne changerait rien aux caractères habituels de la longue trajectoire du capitalisme. Cette hypothèse dérivait d'abord d'un constat, le constat selon lequel le bloc socialiste n'a pas réussi à faire bouger l'hégémonie états-unienne, qui selon Wallerstein est le fait massif du XXe siècle et le fait massif du capitalisme contemporain. Mais cette idée que la situation moderne et l'existence d'un bloc n'a rien changé, elle dérivait aussi d'une intuition qu'on peut qualifier de plus fonctionnaliste. L'idée, c'est que de manière générale, depuis qu'il existe, c'est-à-dire en gros depuis les grandes découvertes, depuis le 15e, 16e siècle, hein, l'idée c'est que depuis qu'il existe, le capitalisme est polarisant et qu'il permet de mettre en parallèle, qu'il permet de comparer un centre qui longtemps est resté européen ou occidental et une périphérie, hein, une périphérie du système qui est plutôt, comme je le disais, objet, victime ou cible d'activités de type prédatrice, colonialiste ou autre. Mais Wallerstein a toujours dit qu'il existait une tierce catégorie, et c'est la catégorie de semi-périphérie qui jouait ce rôle-là. Qu'est-ce que c'est qu'une semi-périphérie ? Les semi-périphéries, ce sont les régions du monde qui, sans être bénéficiaires des échanges et des activités, comme a été, mettons, l'Angleterre au 19e siècle, sans être bénéficiaire net des activités économiques, sans commander l'ensemble du système, ne sont pas pour autant exclus des circuits de l'enrichissement, ne sont pas simplement des cibles des visées prédatrices, ne sont pas simplement l'objet d'une exploitation organisée. D'une certaine façon, elles récupèrent des miettes, elles ont aussi leur petite périphérie ou leurs petits objets de prédation à elles. Il s'agit, derrière la catégorie de ce périphérie, de pays qui se développent grâce à leur lien avec un centre rayonnant, bien qu'il soit en déclin ou bien retardataire. Être en déclin ou être retardataire par rapport à ce qui fait vraiment l'histoire, à ce qui est en avant de l'histoire, à ce qui est avant-gardiste dans l'histoire, c'est le signe qu'on a affaire à une semi-périphérie. Or, le phénomène de semi-périphérie est constitué de l'existence du capitalisme. L'Europe du Sud, par exemple, peut être considérée comme la semi-périphérie de l'Europe de l'Ouest au XVIIIe et au XIXe siècle. Eh bien, la thèse de Wallerstein, ça a été que les pays socialistes, en Europe et ailleurs, et l'URSS comprise, ont constitué au XXe siècle une partie de la semi-périphérie du capitalisme réellement existant, du capitalisme fonctionnant comme un système. On peut même dire que du point de vue de la théorie du système monde, l'existence de l'Union soviétique et des pays qui se sont inspirés de l'expérience soviétique constitue la preuve de la validité universelle, pourrait-on dire, de la catégorie de semi-périphérie. Ça joue donc un rôle assez fondamental dans le dispositif théorique de Wallerstein. Alors, il existe un seul ouvrage d'ampleur qui est en quelque sorte prolongé et affiné ces intuitions wallersteiniennes, ces intuitions semi-périphéristes, comme on peut les appeler. Cet ouvrage, je l'ai mis en référence et j'en ai extrait un passage dans le fichier que j'ai envoyé à Julien il y a quelques jours et qui vous sera transmis si ça vous intéresse. Cet ouvrage est un ouvrage collectif qui a été dirigé par le sociologue Chase Dunn, un ouvrage qui s'intitule « Socialist States in the World System », les États socialistes dans le système monde. Le thème général de l'ouvrage, qui encore une fois est le seul livre issu de la théorie du système monde à s'être intéressé au cas de l'Union soviétique et au cas du socialisme réellement existant, la thèse... le thème de l'ouvrage est que la nature caricaturale du socialisme pratiquée dans les pays qui se réclament du socialisme, et ils sont nombreux au moment de l'ouvrage, un ouvrage est paru en 1982, montre, ainsi que son inefficacité économique, ont deux contreparties. D'abord, à l'échelle globale, expliquent les auteurs qui ont écrit pour ce livre, c'est le système monde capitaliste centré sur les États-Unis qui continue à faire l'histoire. À être le cœur du capitalisme, et donc à faire l'histoire, à être le véritable sujet de l'histoire. Et d'autre part, et c'est là le point le plus original par rapport aux thèses initiales de Wallerstein, dans ces sociétés, je rappelle qu'on est en 1982, la dépendance à l'égard de l'univers capitaliste est en train de devenir de plus en plus patente. Et les différents contributeurs présentent à la fois des propositions théoriques générales et des études de cas qui sont censés illustrer ces deux hypothèses fondamentales qui raffinent la conviction banale à l'époque selon laquelle ces sociétés socialistes sont dans une phase de crise grave. Alors ce que je veux rappeler dans un second temps, après avoir fait référence à ces travaux déjà lointains, c'est que chez les auteurs plus contemporains, plus proches de nous, on va dire post-effondrement de l'Union soviétique, mais qui continue à se réclamer de la théorie du système monde ou à graviter autour de ces idées essentielles, eh bien, on retrouve un certain nombre de ces idées, mais que c'est un schéma fonctionnaliste, très nettement fonctionnaliste cette fois, de type ruse de la raison, un schéma hegelien de type ruse de la raison, qui est à l'œuvre lorsqu'il s'agit d'interpréter cette fois rétrospectivement l'URSS, ou bien le communisme en général, ce qui représente bien une radicalisation par rapport aux positions initiales de Wallerstein. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on lit ces textes, j'y ferai référence plus précisément dans un instant, il ne s'agit pas simplement de minorer une expérience historique que l'on considère aujourd'hui comme close, mais aussi de la réinscrire dans un ordre des choses qui la dépassait infiniment. Bref, de s'opposer frontalement à une compréhension flatteuse et alternativiste qu'elle avait d'elle-même, en lui expliquant d'autorité, pour ainsi dire, qu'elle a au fond, sur le long terme, plutôt servi docilement les fins du capitalisme, les fins du système capitalisme réellement existant. Elle lui a facilité la vie. Alors, quelles sont les preuves de cette thèse apparemment contre-intuitive ? Bon, pour ces auteurs, je les nommerai dans un instant, l'histoire du XXe siècle, c'est de manière parfaitement transparente et univoque l'histoire du système monde capitaliste centré sur les États-Unis. Là, il y a une affirmation massive que l'on peut qualifier de dogmatique, mais qui est maintenue. La crise actuelle de ce système monde sur les États-Unis est décrite par ses auteurs plus contemporains comme autonome sur le plan logique. Elle n'aurait rien à voir avec tout ce qui a suivi 1917, soviétique et ses invasions. On peut dire au fond que c'est la grande ironie de l'histoire récente. Les pays communes ont si peu contribué à affaiblir le système monde capitaliste qu'il a fallu attendre la chute de l'Union soviétique, leur grand modèle, pour que la vraie crise de ce système monde commence à éclater. Comme pour montrer à quel point toute cette agitation était restée peu subversive. Comme pour montrer à quel point ces régimes s'inscrivaient tranquillement dans un cadre déterminé par le système monde capitaliste triomphant. C'était, pour ainsi dire, une hypothèque à lever. Le communisme apparaît après coup comme une hypothèque à lever avant que les choses sérieuses ne commencent. Il fallait laisser place nette. Alors, c'était ma caractérisation générale de ces positions contemporaines. Non, je voudrais analyser d'un peu plus près un certain nombre d'auteurs qui me paraissent correspondre à ce modèle que j'ai dessiné de façon abstraite et quelque peu critique. Un premier auteur, et là encore pour les références précises, vous demanderez à Julien de vous répercuter le fichier plus complet que malheureusement de façon tardive je lui ai envoyé. Le premier auteur c'est un auteur qui s'appelle Oscar Sanchez Siboney, qui a un ouvrage récemment paru, il y a 4-5 ans, qui s'intitule Red Globalization. Red Globalization, la mondialisation rouge. Et si je voulais résumer ce livre en quelques phrases, je dirais les choses suivantes. Si, pour l'auteur, l'on dépasse les écrans de fumée de la guerre froide, il est clair que le développement de l'économie soviétique, malgré un démarrage en trombe, malgré des succès qui ne sont pas testables, il est clair que ce développement est resté dans des limites relativement étroites. Ainsi, même compte tenu, disons, de l'incertitude des statistiques, dans l'Union soviétique, les statistiques étaient politisées et donc elles ne sont pas fiables après coup, il est cependant très probable que le produit intérieur brut de l'Union soviétique n'a jamais dépassé celui, disons, de puissance devenue moyenne, comme la Grande-Bretagne ou la France, dans les décennies qui ont suivi 1945. Seul le militarisme et l'autoritarisme ont pu atténuer la portée de cette faiblesse structurelle de l'économie soviétique. Donc deuxième Sanchez, et elle est plus subversive et plus fonctionnaliste, pour ainsi dire, ce n'est pas simplement un constat d'échec, l'URSS a été l'agent d'une sorte de mondialisation de second rang.
Ah. Ouais, on vous entend plus, Stéphane.
Ça marche, là ?
Ça marche, oui.
Je ne sais pas quoi. La mondialisation des tardataires ou encore la mondialisation des pauvres. C'est ce qu'atteste le développement d'un commerce international au sein des pays communistes, du bloc de l'Est européen jusqu'aux nations africaines récemment décolonisées, en passant par le cas très connu de Cuba. Il s'agissait d'un commerce souvent à base de troc, qui concernait surtout les matières premières et les produits à faible valeur ajoutée. En ce sens, la mondialisation rouge, comme l'appelle de façon éloquente Sanchez Siboney, a rendu possible l'approfondissement rapide d'un processus d'unification capitaliste très net après 1991, disons que les choses avaient été préparées. Avaient été préparées à une échelle modeste, et c'est peut-être, c'est ce que suggère Sanchez-Siboney, le sens historique secret de toute cette affaire. Alors, deuxième exemple d'auteur ou d'ouvrage important qui me paraissent correspondre à ce portrait que j'ai dessiné. C'est un ouvrage très connu, hein, c'est un ouvrage très connu qui a été traduit en français et qui est discuté à l'échelle mondiale depuis sa parution. C'est le livre du grand historien et économiste italien Arrighi, hein, Giovanni Arrighi. L'ouvrage s'intitule Adam Smith à Pékin, hein, Adam Smith à Pékin, qui est paru en 2007. Alors, cet ouvrage est très important, hein, dans l'histoire de la théorie du système monde, d'abord pour une raison propre à l'auteur, à Arrighi. C'est qu'avec ce livre, Arrighi semble cesser de considérer l'histoire du capitalisme comme une espèce de course folle, comme une sorte de processus de croissance ininterrompue, sans cesse alimenté, on pourrait dire presque sans cesse grisé, par ses propres succès, sans cesse enivré par son élargissement. C'était la tendance d'Arrighi dans ses ouvrages antérieurs de décrire l'histoire triomphale du capitalisme de cette manière. Arrighi explique maintenant, dans ce livre qui est son dernier livre, hein, il est décédé quelques années après, Arrighi explique maintenant que le basculement d'hégémonie en faveur de la Chine et au détriment des États-Unis, qui selon lui est caractéristique du début du XXIe siècle, hein, de l'hégémonie des États-Unis vers la Chine, c'est une thèse qui était déjà chez Wallerstein, mais qui apparaît ici radicalisée, n'apparaît pas seulement comme, comment dire, une crise de croissance du système, lequel, par nature, cherche toujours à accroître sa puissance économique, politique, militaire, culturelle. Ce n'est pas simplement une crise de croissance du système, c'est surtout, explique Arrighi, une façon de renouer avec une possibilité de développement que l'Occident a finalement délaissé parce qu'il a choisi la voie d'une poursuite illimitée des gains de productivité et une poursuite illimitée du profit. Cette possibilité délaissée que les termes capitalisme et socialisme ne décrivent pas bien, et c'est un aspect important de la pensée d'Arrighi que de considérer que les termes capitalisme et socialisme ont des limites dans leur pouvoir de description, et en particulier par rapport à ce qui se passe dans la Chine contemporaine, cette possibilité, c'est celle d'un enrichissement fondé sur une main-d'œuvre abondante, hein, sur une main-d'œuvre abondante, qui n'est donc pas tournée vers des structures gigantesques, pas tournée vers le gigantisme des grandes entreprises, des grandes corporations, mais plutôt fondée sur des réseaux multipolaires, d'échanges intelligents. C'est une économie portée également, transfert des choses, par un interventionnisme réfléchi plutôt que par une libéralisation conçue comme de fin en soi. Bref, d'après Arrighi, le retour de la Chine sur la scène mondiale serait une espèce de revanche de l'humanité, une revanche de l'humanité sur la trajectoire d'un capitalisme qui fut agressif et expansif.
On a de nouveau perdu le son, Stéphane.
Est-ce que ça reprend ?
Oui.
Ça marche ?
Oui.
Donc, le retour de la Chine sur la scène mondiale serait une revanche de l'humanité sur la trajectoire classique d'un capitalisme agressif et expansif. Ce retour de la Chine sur la scène mondiale signifierait la victoire, disons, du principe d'une économie marchande et productive. D'une économie marchande et productive, certes, en ce sens analogue à ce que l'on appelle capitalisme dans le monde occidental, mais aussi d'une économie enchâssée, qui accepte de l'être, qui accepte de le rester, d'une économie enchâssée dans les cadres de la vie collective, autrement dit, d'une économie qui n'est pas nécessairement, qui n'est pas forcément mue par la contrainte suicidaire de la démesure. Alors, rétrospectivement, le livre d'Arrighi a maintenant plus d'une dizaine d'années, donc on peut envisager les choses avec une distance. Rétrospectivement, le propos d'Arrighi peut sembler étonnamment optimiste, étonnamment confiant dans la rationalité des choses, étonnamment confiant dans le progrès de l'histoire, tout en reprenant, disons, une sinophilie d'un bloc du siècle des Lumières qui apparaît après coup désarmante de naïveté. Il y a vraiment trop de confiance, hein, nous le pouvons le voir maintenant, d'Arrigui, dans la capacité de Chine à proposer des modèles sociétaux et économiques meilleurs, et en tout cas radicalement différents de ceux qui triomphent dans un Occident néolibéralisé. Hein, c'est très clair désormais. En effet, tout dans le livre d'Arrigui suggère qu'à l'Est, hein, en Orient pour le coup, on saura bien mieux faire que les Occidentaux. Tout suggère dans sa peinture qu'une intelligence assouplie, en train de se réveiller, qui pourra presque miraculeusement résoudre tous nos grands problèmes, les problèmes politiques, les problèmes économiques et les problèmes environnementaux, surtout. Dans cette perspective, le communisme chinois, l'héritier indocile de l'expérience soviétique, semble bien avoir été l'agent involontaire de la raison. C'est pour ça que je parlais d'un schéma hegelien tout à l'heure. Il a permis l'émergence de populations éduquées, énergiques, volontaires, mais aussi d'un État efficace. Un fond sur lequel les réformes de Deng Xiaoping n'auront pas du mal à réussir une fois éteints les embrasements artificiels de l'âge maoïste. Bref, la Chine aurait réussi là où l'Union soviétique, faisant triompher le principe d'autorité et le productivisme aveugle, a échoué, mais la Chine a réussi sur la base de cet échec même. Sur la base de cet échec même, comme une réaction qui devait être suscitée par sa violente partialité même. Au fond, d'après Arrigui, le communisme, d'abord russe, puis chinois, aura été l'agent de la réactivation d'un héritage plus que prometteur qui attendait son heure. Pendant qu'à l'Ouest, en Occident au sens large du terme, le capitalisme, au sens de cette chose très occidentale, une économie de production hors sol, tendue vers l'auto-expansion irrationnelle et le gigantisme, donc pendant que le capitalisme se déployait librement, du moins en apparence, avant de commencer à s'épuiser. Troisième cas, et j'arrêterai ma liste ici, ça sera pas dit, de ces auteurs contemporains qui se situent dans le sillage de la théorie du système monde, l'historien Georgi Derlugian, qui pose un bilan de ce qui, pour lui, n'a été qu'une parenthèse historique. La tentative d'un développement économique accéléré dans des conditions adverses et qui a logiquement débouché sur l'autoritarisme et l'inefficacité. D'après Derlugian, les prévisions de Wallerstein, celui-ci répétait que l'Union soviétique ne pouvait pas survivre sur le long terme, les prévisions de Wallerstein se sont réalisées. Le communisme, sur le long terme, n'aura été qu'un long détour opéré par certaines nations pour rejoindre, certes de façon tortueuse, certes de façon parfois chaotique, le grand système capitaliste typique du XXe siècle, comme si celui-ci était resté au fond la source d'une attraction inévitable et avait fini par absorber dans son vortex l'ensemble des sociétés. Il aura été donc ce communisme une façon de préparer la mise en relation du capital international avec la force de travail nationale. Par ailleurs, on peut dire que, ironiquement toujours, le système monde capitaliste a été sauvé par l'industrialisation militaire de type soviétique qui a suivi la révolution communiste. Dans les faits, cette militarisation a joué le rôle d'un stabilisateur géopolitique d'importance. Il fut un facteur d'apaisement, un facilitateur, dit Derlugian, dans lutte de classe du centre en contribuant à l'intégration politique du prolétariat. Mais finalement, et c'est ça le second argument peut-être le plus troublant de Derlugian, l'expérience soviétique a surtout comme intérêt de nous apprendre comment un système peut s'effondrer. Les groupes qui détiennent le pouvoir et la richesse peuvent, dans certaines circonstances, ne pas pouvoir répondre aux différentes crises auxquelles ils font face et réagir par une panique, le chacun pour soi, garant d'inefficacité. Finalement, donc, si on prend en compte ce dernier argument, on voit pour Derlugian, l'histoire de l'Union soviétique se révèle intéressante, non pas en elle-même, mais comme modèle d'un effondrement systémique qui, d'une certaine façon, a le capitalisme aujourd'hui. Ce que l'on pourrait dire, c'est que dans, comme chez Arrighi, le monde reste ici pour l'essentiel un cosmos bien organisé, bien structuré. Comme dans le marxisme classique, il y a une logique historique forte. Il y a une logique historique forte qui permet de voir l'effondrement de tels systèmes économiques ou socio-économiques anciens comme la preuve que les jours du capitalisme sont comptés, à cette différence près, différence énorme, hein, par rapport au marxisme classique, que le communisme, sous sa version soviétique et post-soviétique, a remplacé le féodalisme, hein, comme modèle d'un mode de production et d'un système économico-politique voué à l'effondrement. Donc on voit que, de ce point de vue-là, se maintiennent des visions assez fermes, assez classiques, hein, de la séparation entre le central et le périphérique, se maintient une vision de l'histoire où les logiques historiques ont une netteté, une clarté, j'allais dire une simplicité, qui ne laisse rien à désirer. Il y a de la cohérence dans les choses, il y a de la cohérence dans l'histoire, on peut rechercher des modèles, on peut rechercher des schémas qui sont applicables ailleurs. Alors si je fais le point sur ces trois visions de l'histoire de l'Union soviétique et du communisme, je peux constater un certain nombre de choses. D'abord, il faut dire qu'elles se caractérisent sobriété rafraîchissante qui tranche par rapport, disons, aux classiques théories du totalitarisme. Je ne dis pas qu'elle exclut la catégorie de totalitarisme, mais qu'elle nous offre un regard sur l'expérience soviétique qui se décale complètement par rapport au schéma maître du totalitarisme qui continue à être l'essentiel de nos représentations politiques, je crois. L'URSS, si l'on veut, passe du statut de monstre terrifiant ou encore de grand royaume de l'absurde, à celui d'une simple parenthèse. Et cela n'est pas mal, parce que cela rend, me semble-t-il, plus accessible ces phénomènes à l'intelligence historienne, hein, on fait taire une certaine grandiloquence qui s'était greffée aux théories du totalitarisme. Mais il me semble que l'on va plus loin. Il me semble que l'on va vers une thèse quasi-déterministe qui explique que l'effondrement était par principe prévisible. Que l'expérience soviétique a été au fond ridicule et une perte de temps pour l'humanité. Or, il me semble que ce n'est pas de cette manière-là qu'il faut penser, et que dans le cadre d'une théorie du système monde, c'est ma thèse, hein, c'est la thèse par laquelle je conclurai ma présentation, la prise en compte de l'expérience soviétique dans sa singularité nous oblige plutôt à revenir sur certaines présuppositions philosophiques et théoriques de la théorie du système monde. Je voudrais donc qu'au lieu simplement d'appliquer mécaniquement le cas soviétique, au lieu d'appliquer mécaniquement les thèses ou les grandes visions ou les grandes présuppositions que Wallerstein a élaborées au cas soviétique, il me semble qu'il faudrait plutôt partir de l'inverse et montrer qu'avec la complexité de l'histoire soviétique, avec les ambivalences d'expérience soviétique, on a de quoi transformer, en quelque sorte par ricochet, hein, après coup. Hein, on a de quoi peut-être transformer, en tout cas une exigence de transformation, des cadres intellectuels qui ont été comme des évidences maintenues à travers du système monde, qu'elles soient exprimées dans sa version wallersteinienne ou post-wallersteinienne. Alors, je voudrais donner quelques jalons, hein, des arguments qui peuvent mener à une telle réélaboration. Bon, la première étape du raisonnement, je ne les parcourrai pas toutes, ni ne leur consacrerai le temps qu'elles méritent, mais la première étape du raisonnement est la plus simple, mais me semble-t-il la plus fondamentale, plus basique. Je crois que nous avons intérêt à rester prudents lorsque nous nous demandons quelle nécessité il y a eu dans le déclin, puis dans la disparition de l'Union soviétique, s'il était inscrit dans l'ordre des choses, que cela se termine d'une manière aussi pitoyable. En effet, des scénarios contrefactuels crédibles ne manquent pas de venir à l'esprit lorsque l'on découpe le fil des événements qui vont de la stagnation brejnevienne jusqu'à la perestroïka et à ses conséquences anarchiques. Si l'inefficacité économique globale du système, ainsi que les formes de domination politique sociale qui l'accompagnaient, ne rendaient pas tous les scénarios, toutes les trajectoires également possibles, elles ne donnent pas pour autant raison aux tenants des grandes forces systémiques irrépressibles, même à ceux qui admettent qu'il aurait pu exister des variantes accidentelles. leur position me paraît trop proche ici d'un déterminisme téméraire. En réalité, il y a des choses que nous ne savons pas. Nous ne savons pas, par exemple, dans quelle proportion l'échec global peut être séparé d'aspects, disons, plus sains, plus positifs ou plus prometteurs, je ne sais pas, dans le droit, dans les pratiques économiques, que le système communiste abritait et qui aurait pu conduire, je me place ici uniquement sur le plan historique, hein, qui aurait pu conduire à un sursaut dans d'autres circonstances ou au moins à l'évolution de certains rapports de force. Nous ne savons pas non plus si l'expérience soviétique devait échouer au point de déboucher sur une disparition brutale. Dans le détail, nous ne savons pas non plus si elle devait disparaître, plus ou moins de la manière dont elle s'est effectivement effondrée, ni si cet effondrement apprend quelque chose de général à propos des limites d'une économie capitaliste. Certes, il y a lieu de croire que la place de la nécessité n'a pas été immense dans cette affaire, quel que soit le plan de raisonnement retenu, ce que paraît corroborer, me semble-t-il, la trajectoire chinoise ultérieure, une trajectoire chinoise ultérieure que l'on peut décrire comme un communisme qui a réussi sa métamorphose en préservant certains de ses éléments constitutifs, certains éléments issus du léninisme lui-même. Mais il me semble qu'il suffit d'admettre qu'il n'y a pas de certitude en ces matières, que les facteurs sont trop enchevêtrés. Dans ces conditions, se représenter l'histoire de l'Union soviétique comme une sorte de ruse de la raison hégémonique et capitaliste, agent inconscient d'une mondialisation qui bénéficie aux États-Unis, il me semble que tout cela n'est pas une obligation. Ces hypothèses qui font a posteriori de l'effondrement de l'Union soviétique un événement structurellement prévisible dérivent d'une approche heuristique intéressante, parce qu'elle attire l'attention à juste titre sur les grandes forces tectoniques, mais qui demeurent dépourvues d'un quelconque privilège épistémologique. Il me semble donc que la théorie du système monde s'est engouffrée dans une hypothèse déterministe qui, d'une certaine façon, nous fait réfléchir aux limites ou aux difficultés qu'elle pose de manière plus générale. Deuxième étape du raisonnement, je vois que l'horloge tourne, donc j'essaierai d'être assez bref. L'idée que cette critique du déterminisme peut nous mener à une réflexion sur, disons, les ambivalents du XXe siècle et sur les ambivalences du communisme en particulier. Tout d'abord, je parle de simples remarques de bon sens. Il ne devrait pas être aujourd'hui de parler à propos de l'expérience communiste d'une hétérogénéité essentielle. Une hétérogénéité qui d'abord peut être appréhendée d'un simple point de vue chronologique. Il y a bien eu une expérience soviétique, ça a du sens de parler ainsi, mais les évolutions, les improvisations, les revirements ont ponctué l'histoire après 1917 à un point tel, me semble-t-il, que tout jugement d'ensemble, échec du communisme, totalitarisme ou que sais-je, que tout jugement d'ensemble a guère de sens. Sur le fond, clairement, on sait très bien que cette expérience a permis l'émergence d'une tyrannie extrême qui, à l'époque du stalinisme, a débouché sur des flambées de barbarie sidérantes, mais elle a aussi correspondu à des expériences sociales, économiques et culturelles variées qui, même si elles ont du mal aujourd'hui à provoquer l'excitation, j'en ai bien conscience, n'étaient pas forcément toutes aberrantes par principe. Ainsi, par exemple, avec ce que nous offre le présent, notre présent, disons les folies d'un néolibéralisme pris dans une logique de surenchère constante, il me semble qu'il est devenu un peu plus facile de comprendre quelque chose. Il me semble qu'il est devenu un peu plus facile de comprendre que, quels que soient leurs défauts, les systèmes qui limitent durement l'avidité, et qui bloquent la constitution d'une oligarchie, eh bien, que ces systèmes ne reposent pas sur de belles intuitions quant à ce qui peut amener les sociétés humaines vers le grotesque et l'indécent. Pour le dire de façon plus ramassée, comme contemporain de l'interminable embardé néolibéral, nous sommes objectivement concernés, que cela nous plaise ou non, par les choix fondamentaux sur lesquels reposaient des expériences aux résultats souvent peu reluisants, certes, hein, je ne reviens pas là-dessus. À propos de l'Union soviétique, il faut au moins admettre qu'il ne fut pas un monolithe sur lequel l'histoire aurait maintenant à prononcer une sentence. Alors, sur le plan historique, cette intuition assez vague, assez générale et de nature axiologique pourrait avoir une certaine vertu heuristique, me semble-t-il. Je vais m'appuyer ici sur l'exemple de l'historien britannique Eric Hobsbawm. Eric Hobsbawm est très intéressant, hein, je parle ici essentiellement de son livre sur le cours XXe siècle, hein, qui est désormais très connu et considéré comme un classique, hein, le cours XXe siècle. Hobsbawm ne s'oppose nullement à la théorie du système monde. Beaucoup de ses analyses recoupent celles de Wallerstein et le fond marxiste dans les deux cas est tout à fait évident. Mais il me semble que Hobsbawm refuserait l'idée que le XXe siècle puisse être qualifié comme le siècle, disons, du devenir, de la trajectoire de l'hégémonie américaine, de sa victoire et de sa pénible érosion. Pour Hobsbawm, ce fut d'abord un siècle traversé de conflits gigantesques et irrésolus, des conflits gigantesques et irrésolus dont l'affrontement entre les États-Unis et l'Union soviétique, bien qu'il ait joué un rôle structurant, n'a pas été l'unique centre, n'a pas été l'épine dorsale. Les choses se sont montrées plus indécises que cela, et même cet affrontement en particulier était plus problématique, moins tranché que ce que permet de conclure le regard rétrospectif, nécessairement injuste ou partial. Pour le dire très simplement, la guerre froide aurait pu se terminer autrement, et ce constat très simple est de nature à faire bouger un peu les considérations théoriques qui peuvent nous intéresser. La guerre froide aurait pu se terminer autrement, mais il y a eu aussi des choses plus tangibles, des choses plus réelles. Il y a eu le prestige du communisme soviétique et son rôle dans l'éveil du Sud global, ce qui n'est pas rien à l'échelle de l'histoire. L'éveil du Sud post-colonial, pourrait-on dire. Il y a eu aussi la richesse d'une culture qui fut, au moins au début, après 1917, hein, qui fut liée à des aspirations créatrices et émancipatrices polymorphes. Enfin, du point de vue de Hobsbawm, redonner un peu d'incertitude et de bouger, pour ainsi dire, l'histoire du XXe siècle, c'est aussi prendre en considération l'ampleur des expériences sociales qui ont cherché à se soustraire aux déformations impliquées par les contraintes inhérentes au capitalisme et à l'étatisme, ce qui n'est pas rien. Bref, le point de vue des vainqueurs n'est pas le bon, et en tout cas, il ne doit pas nous suggérer d'écrire l'histoire avec un esprit de linéarité, pourrait-on dire, qui gomme les complexités et les hésitations et les ambivalences. C'est la formulation de cette intuition historique que permet le rappel de cette évidence que les choses auraient pu tourner autrement. Cela ne revient pas à nier les rapports de force, ni à ignorer les tendances lourdes. C'est plutôt une manière de restituer, point de vue de Hobsbawm, aux expériences et aux évolutions, le caractère fragmentaire, tout autant que leurs ambiguïtés constitutives. Le système monde de l'économie capitaliste en fonctionnement n'a pas été le monde, hein, n'a pas été le monde avec un grand M. Il ne s'agit pas simplement de les forces qui font l'histoire universelle et le font de manière univoque. Bref, il me semble que certaines idées de Hobsbawm, même si elles sont à l'état, disons, d'inachèvement, pourraient contribuer à éviter que la théorie du système monde ne devienne, dans le champ des sciences humaines et sociales, ne devienne l'un des derniers bastions d'une conception de l'histoire marquée par la recherche à tout prix de la transparence, de la netteté et de la linéarité. Alors, le temps passe vite, je vais prendre quelques minutes pour résumer rapidement les points que je n'aurai pas le temps de développer, hein, pour ensuite faire place à la discussion. J'avais deux points avec lesquels j'aurais aimé terminer et approfondir. Une étape supplémentaire de la réflexion, me semble-t-il, c'est celle que nous atteignons, comment nous prenons en considération le fait que l'introduction de ces ambiguïtés dans l'histoire du XXe siècle, nous permet de revenir au stade antérieur de l'histoire du capitalisme avec un autre esprit, avec un autre esprit, avec une autre totalité. Voilà, l'idée qu'il y a un centre et une périphérie et que tout cela est net et clair. Hein. Cette géométrie wallersteinienne, hein, nous avons vu qu'elle était peut-être mise en question, qu'elle pouvait être mise en question eu égard à la richesse, à la complexité et à l'ambivalence de l'expérience soviétique. Or, ce qui m'intéresse, moi, c'est que parmi les auteurs qui s'intéressent à la théorie du système monde, certains aujourd'hui estiment que l'image de capitalisme, on va dire précontemporain, que développe Wallerstein n'est pas correcte, qu'elle est trop soumise, comment dire, à un fantasme de simplicité. Vous avez un certain nombre d'auteurs, dans le monde anglophone, ils sont très nombreux, il y en a aussi un petit peu dans le monde francophone, qui insistent sur le fait, par exemple, que l'économie monde européenne du XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle n'était pas nécessairement dominée par un centre. Certes, Amsterdam au XVIIe siècle ou Londres au XVIIIe et au XIXe siècle jouent un rôle exceptionnel. Et est-ce que écrire l'histoire économique et sociale en gardant un regard fixé sur ces grandes dominations financières, économiques et industrielles, est-ce que c'est rendre compte de la complexité des rapports de force, des pouvoirs, pas nécessairement? Et un certain nombre d'auteurs insistent sur le fait aujourd'hui que le système européen doit être réinscrit dans un contexte encore plus large, en prenant en compte les interactions avec d'autres économies monde, par exemple l'économie monde indienne ou l'économie monde chinoise. Bon, ce qu'on peut dire, c'est que la tendance aujourd'hui à globaliser l'histoire, à écrire une histoire des interactions entre sociétés et civilisations, plutôt qu'à se focaliser sur des cloisonnements supposés, est en train de faire bouger les choses dans la théorie du système monde au point même de remettre en cause cette géométrie simplificatrice qui s'est imposée. Mais il me semble que le levier ici, le levier, c'est la prise en compte de la spécificité du XXe siècle et d'une complexité qui ne se laisse pas réduire à une théorie de l'hégémonie. Enfin, la dernière idée.
Stéphane, il va falloir bientôt terminer.
En 4 minutes, Julien, c'est promis, en 4 minutes. Alors, l'idée, au fond, conclusive, serait celle-ci. Peut-être qu'on peut aller encore plus loin et se demander jusqu'à quel point la catégorie de capitalisme peut être maintenue, disons, dans son intégrité traditionnelle. Tout simplement, je parle du constat suivant. C'est que l'économie de l'Union soviétique n'était pas capitaliste, puisqu'il lui manquait ces deux piliers du capitalisme que sont le marché et l'entreprise lucrative. Ça ne peut pas être caractérisé comme un capitalisme d'aucune sorte. Mais néanmoins, nous savons tous qu'elle possédait un certain nombre d'analogies avec le capitalisme de l'époque. La domination de la nature, la prédominance des grandes structures entrepreneuriales, l'organisation rationnelle du travail, nous savons tous que la valorisation léniniste du taylorisme, a laissé des traces dans l'expérience soviétique. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, ça veut dire qu'au fond, il faut prendre en compte le fait que ce que nous appelons peut être composé de traits, de caractères, de tendances, de façons de voir les choses, de façons d'agir, dont la cohérence n'est peut-être pas si certaine que cela. Au fond, ce que montre l'expérience soviétique, c'est que des choses peuvent se détacher, c'est un principe de détachabilité, que des tendances, des possibilités sociales et humaines peuvent se détacher de leur premier écosystème capitaliste, se greffer ailleurs, prospérer ailleurs. Oui, la domination de la nature n'est pas un trait propre du capitalisme, puisqu'elle a existé aussi dans le communisme soviétique et sous une forme exacerbée. Voilà, ce qu'on peut dire, c'est que la prise en compte de l'expérience soviétique nous invite, nous oblige peut-être à revenir à des considérations épistémologiques sur ce que nous voulons mettre sous la catégorie de capitalisme. Il n'y a pas simplement le fait, et je terminerai par là, il n'y a pas simplement le fait que le capitalisme est flexible, qu'il est sujet à des mutations, qu'il est résilient, autant que je pense maintenant que tout le monde dit, et à juste titre. Je me demande si, à côté de ce fait-là, à côté de cette souplesse, cette plasticité, cette mutation, cette diversité du capitalisme, il ne faut pas introduire un peu de scepticisme quant à la capacité qu'a notre pensée d'isoler, par la réflexion, un ensemble de traits, de tendances parfaitement cohérentes, homogènes, faisant système entre elles et que l'on identifierait au capitalisme. Le fait que le socialisme soviétique ait développé proximité, des influences, des affinités avec le capitalisme, nous montre peut-être que les fuites, que les transports, que les échanges, que les détachements possibles font partie de l'ensemble. Voilà, je m'excuse d'avoir été un peu rapide et allusif à la fin, mais comme ça, le contrat chronologique est respecté, me semble-t-il.
Ben merci Stéphane. Alors je vais donner la parole tout de suite à Lysiane. On va avoir à peu près une trentaine de minutes de questions-réponses. Donc à toi Lysiane.
Oui, tout d'abord merci pour cette présentation qui est à la fois intéressante et stimulante. Et j'y ai trouvé pas mal des caractéristiques que j'avais pu retrouver, notamment dans l'entretien que vous nous aviez fait passer, que vous aviez réalisé avec la revue Période, et qui marque une posture philosophique qui est singulière et particulièrement intéressante, qui souligne à la fois, qui replace le capitalisme dans la longue durée, donc qui souligne ses formes historiques, et qui porte particulièrement attention tout à la fois à ses formes fixes, à ses fixités, et également à sa plasticité, à sa flexibilité. Et ça, j'avais trouvé ça tout particulièrement intéressant, et vous aviez déclaré vous engager justement en faveur du pluriel et du contingent, qui est à la fois un positionnement épistémologique particulièrement intéressant, justement pour percevoir le capitalisme dans sa complexité, comme vous l'aviez reprécisé. Et j'aimerais mettre ça en perspective justement avec la pensée actuelle sur les communs et avec votre dernier ouvrage qui s'intitule donc « Penser le néocapitalisme, vie, capital et aliénation », dernier ouvrage dans lequel à la fin vous envisagez une sortie de la société capitaliste, une ouverture vers la société post-capitaliste qui justement ne marque pas une rupture nette définitive, une sorte de révolution, pourrait-on dire, un grand soir par rapport au capitalisme, mais davantage une insertion en fait de nouvelles formes de vie, de nouvelles formes d'échanges sociaux au sein même d'une société capitaliste qui permettrait de faire voir un autre type de société progressivement, donc une société post-capitaliste au travers de différentes formes de transformation. Donc j'aimerais potentiellement que vous reveniez là-dessus, donc à la fois cette insistance sur la nécessité du pluriel et du contingent à un niveau à la fois épistémologique mais aussi dans sa dimension politique, et également donc cette possibilité pour remettre en perspective entre le passé, le présent et le futur, cette transition vers une société post-capitaliste. Et je voulais également insister particulièrement, et ça se ressent dans vos ouvrages sur l'aliénation, sur la volonté à la fois de prendre en considération l'aliénation objective, donc les puissances détachées principalement, mais également l'aliénation subjective, et finalement de faire l'histoire en partant du bas, certains diraient, de repartir de l'histoire faite par les hommes, comme disait également Gramsci, et justement sur la nécessité peut-être actuellement de se détacher parfois d'une histoire par le haut qui tendrait à insister justement sur cet effet de continuité, sur cette vision de l'histoire linéaire, déterministe, et éventuellement sur la nécessité de revenir justement à une histoire faite par le bas. Vous avez parlé notamment d'une nécessité de décentrement géographique, en plus du décentrement chronologique, et la nécessité finalement de faire dialoguer d'une certaine façon, de mettre en œuvre un certain doute par rapport à nos propres productions intellectuelles concernant notre capacité à faire l'histoire en tant qu'intellectuel, mais aussi en tant qu'intellectuel dans l'histoire, donc de penser notre propre historicité finalement. Ce sera tout, je pense.
Vaste programme, beaucoup de choses à dire. La valorisation du pluriel et du contingent, elle vient d'abord du constat que quand les sociologues, les ou les philosophes ont à interpréter le monde présent, il y a désormais une pluralité de catégories qui s'intègrent. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la manière dont le mot capitalisme est désormais associé à une ribambelle d'adjectifs. On a parlé de capitalisme immatériel, on a parlé de capitalisme cognitif, on va parler de et à juste titre, parce que l'expression est fascinante, de capitalisme cybernétique, on a parlé de capitalisme post-fordiste. Et mon idée, c'est que il faut accepter, comment dire, qu'on ne va pas trancher, hein, que nous ne sommes pas là, nous, théoriciens, chercheurs, chercheuses, nous ne sommes pas là pour trancher dans cette diversité en découvrant qu'il y a en quelque sorte une essence, une nature propre du capitalisme qu'un adjectif simple pourrait permettre de désigner. J'ai envie de dire, ce que nous appelons capitalisme, le monde économique dans lequel nous vivons, mérite tous ces adjectifs. Certains sont plus intéressants que d'autres. Certains permettent de mettre l'accent sur certains aspects, tandis que d'autres sont moins puissants à cet égard. Mais conserver cette richesse potentielle des regards sur la diversité du réel contemporain, chose qui me semble importante. Dans un deuxième temps, c'est peut-être ça, si vous voulez, qui nous différencie aujourd'hui du regard historique sur le capitalisme dont je vous ai dit qu'il aboutissait largement dans la théorie du système monde. Cette idée que le capitalisme a des mutations, que le capitalisme se transforme, est une idée classique et, j'allais dire, constitutive du regard sciences historiques et sociales jette sur le capitalisme. On prend Braudel, on a raison. Mais on peut remonter encore plus loin. Chez Marx, il y a déjà une sensibilité très vive au fait qu'il y a eu quelque chose comme un capitalisme commercial, stimulé par les grandes découvertes, stimulé par le développement du capitalisme, des échanges commerciaux à l'échelle globale, et que la révolution est marque l'avènement de quelque chose de nouveau. Donc l'idée que le capitalisme est une théorie historique des phases, des moments, des différences historiques, c'est quelque chose d'acquis. Simplement, il me semble qu'aujourd'hui, nous devons radicaliser cette vision pluraliste et surtout nous méfier de ce que l'on peut appeler du sionisme. Parce que quand on réfléchit à l'histoire du marxisme, on voit que l'idée selon laquelle le capitalisme qu'avait observé Marx, le capitalisme industriel de type métrique, était en train de changer. Qu'il y avait des choses qui se passaient et rendaient les descriptions, les analyses, mais aussi, grave, les prédictions de Marx problématiques. Cette idée-là, elle est vieille comme le XXe siècle. Hein? Des auteurs comme Hilferding en Allemagne, des auteurs comme Rosa Luxembourg, des auteurs même comme Lénine au début du XXe siècle, sont tout à fait prêts à admettre qu'il y a des choses nouvelles qui apparaissent. L'émergence des très grandes entreprises, la financiarisation de l'économie, ce sont des choses qui sont déjà observées. Mais il me semble que chez les penseurs marxistes, il y a une tendance encore à interpréter les mutations du capitalisme en termes, j'allais dire, de transformation globale et systémique, hein, en termes organiques. Voilà, c'est un organisme qui change de nature, qui change de face et qui change d'organisation. Il me semble qu'aujourd'hui, nous devons passer à un niveau d'analyse de la différence, de l'évolution, de la pluralité du capitalisme. Ce ne sont pas des thèmes que nous avons inventés, hein. Ils sont là d'emblée, ils font corps d'emblée avec tout ce que les historiens et les penseurs ont mis du capitalisme. Mais nous avons intérêt, me semble-t-il, à passer à une étape épistémologique, ou je vais dire ontologique, différente, qui consiste à dire que les mutations dont nous sommes les contemporains n'ont pas en quelque sorte forcément de centre de gravité, n'ont pas nécessairement de lieu de totalisation, n'ont pas nécessairement un visage qui nous laisserait la place, qui laisserait la place à une caractérisation unique et centrale. Bien sûr qu'il y a des phénomènes dont l'influence, dont l'impact est majeur. La financiarisation du capitalisme est un phénomène majeur. L'idée que le capitalisme aujourd'hui peut être qualifié de financier est majeure. Simplement, ce qui y a changé, c'est que là encore, nous renonçons à l'évolutionnisme au sens de l'idée d'une mutation organisée et massive, cohérentiste de l'ensemble. Voilà, le renoncement à l'évolutionnisme, ce n'est pas une décision philosophique qu'on prend un matin en se levant et on décide que l'évolutionnisme est faux. Je crois que chaque secteur du réel, hein, appelle, selon ses structures propres, selon son organisation propre, hein, à renoncer à l'évolutionnisme ou au contraire en garder des éléments, des intuitions ou des traces. Il me semble que ce qui caractérise notre temps, c'est que nous devons, ici, à ce niveau-là, la théorie des mutations et des devenirs du capitalisme, renoncer une bonne fois à un évolutionnisme qui a pu subsister par ailleurs. Alors, deuxième point sur lequel je peux vous répondre, c'est ça qui explique effectivement l'absence, comment dire, de lieu central, l'absence d'un caractère essentiel qu'il suffirait de supprimer ou de faire bouger pour que tout change. C'est ça qui explique, disons, les conclusions politiques, entre guillemets, que, etc. Si effectivement notre capitalisme, le monde économique que nous vivons, pour ne pas utiliser cette catégorie de façon fétichisée, de telle sorte qu'elle ne peut plus rien dire, si le monde économique dans lequel nous vivons pose à des structures qui sont complexes, présente des arêtes ou des aspects qui ne se laissent pas ramener à un principe unique, occasionne des pathologies qui sont diverses. C'est ça qui m'intéresse. Et comme vous l'avez rappelé, comme je suis attaché au concept d'aliénation, ça veut dire que philosophiquement, je considère que partir de ce qui ne va pas et de ce qui est vécu comme n'allant pas, ce sont deux choses différentes, mais que j'associe, hein. Partir de ce qui ne va pas et de ce qui est vécu comme n'allant pas, un bon point de départ théorique. Vous l'avez rappelé avec vos mots à vous, mais qui sont très justes à l'instant. Ça veut dire qu'en partant de là, et en remontant vers les systèmes, des organisations ou des mondes économiques, on arrive à cette même pluralité. Hein. On arrive à cette même pluralité. Cette pluralité dont je vous parlais à l'instant, cette pluralité qui est déposée, qui est exprimée dans la diversité des qualificatifs, des adjectifs que nous associons au mot capitalisme, elle peut aussi être abordée à l'autre extrême du spectre intellectuel. Je veux dire, en bas, pour reprendre votre vocabulaire très juste, et non pas en haut, en bas, il y a une manière de vivre la dépossession, l'exploitation, la privation, l'exclusion. Il y a des manières de vivre tout cela qui sont différentes, de manière de vivre aussi la destruction des environnements naturels, hein, qui sont différentes, qui ne se laissent pas ramener à une cause unique et qui nous permettent, j'allais dire, d'appuyer cette thèse d'une pluralité essentielle du capitalisme. C'est pas, vous voyez, ici on aborde les choses par la périphérie et pas par le centre. Par la périphérie, en l'occurrence par l'expérience vécue. Voilà, qu'il y ait des mots à X, qu'il y ait des pathologies sociales et vécues qui méritent de s'exprimer dans différents vocabulaires, et ce vocabulaire existe. Nous parlons d'aliénation, nous parlons d'exploitation, nous parlons de dépossession, nous parlons de destruction de la nature, me semble corroborer cette thèse pluraliste que j'ai établie de façon plus abstraite et plus intellectuelle, pour ainsi dire, en partant de l'histoire et en partant aussi des usages linguistiques. Donc je ne dis pas que c'est parfaitement systématique et parfaitement clair, mais il y a une sorte d'effet de correspondance ici qui peut jouer. La sensibilité, voilà, à la diversité des violences structurelles du monde contemporain. La sensibilité à la diversité des causes sociales du malheur humain, pour parler très simplement, me semble être un point d'appui phénoménologique plus solide qui permet d'étayer la thèse épistémologique interne aux sciences sociales. De la pluralité des capitalistes. Les deux ne se recoupent pas. Les deux se recoupent pas, mais simplement, il y a des correspondances qui peuvent exister entre ces deux choses-là. Donc, et pour terminer par un troisième point, ça veut dire que les perspectives de transformation, oui, il faut les penser de façon incrémentale, détotalisée, en termes d'expérience, d'improvisation, d'expérimentation locale. Il y a une grande tradition qui favorise l'expérimentation locale du socialisme. Ce que je veux dire, c'est très simple, c'est que le socialisme du 19e siècle, le socialisme européen, il est partagé par des lignes, par des rapports de force extrêmement nombreux. Pour le dire très simplement, il y a des visions décentralisatrices, où les gens disent que ce sont les utopies concrètes, les entreprises coopératives, par exemple, qui feront l'essentiel, et vous avez des visions centralisatrices. Vous avez des visions centralisatrices qui estiment que la prise de pouvoir révolutionnaire, que la prise du pouvoir d'État est la clé de tout, et que c'est autour de la prise du pouvoir d'État que les choses pourront se réorganiser. Le marxisme lui-même, la pensée de Marx elle-même, peut être pensée comme une sorte de formation de compromis, comme un compromis entre ces deux visions-là, même si à mes yeux, Notre vision centralisatrice présentait dans les textes de Marx une netteté que l'autre n'a peut-être pas. Il y a quand même une hésitation ici qui fait basculer la réflexion dans une petite direction. Hein. Pas étatiste, mais en tout cas centralisatrice. Donc le socialisme historique n'a pas tranché sur cette question-là. Est-ce que tout se passe au niveau local ou est-ce qu'il faut un principe d'organisation globale à l'échelle des sociétés ? Ce que l'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, dans ce débat traditionnel, nous sommes mieux équipés, pour les raisons que je viens de rappeler et que votre présentation m'a donné l'occasion de préciser, nous sommes mieux équipés pour aller voir du côté des expérimentations locales, du côté des alternatives concrètes, que de l'autre côté. Ça ne veut pas dire qu'on va résoudre tous les problèmes. On ne résoudra pas la domination de la finance en créant des fermes bio dans un coin perdu de nos campagnes. Ne soyons pas naïfs. Hein. Il y a des problèmes systémiques d'organisation de l'économie, d'organisation de la finance, qui ne sont pensables qu'en fonction de la puissance régulatrice d'instances étatiques ou supra-étatiques. Mais simplement, hein, dans cette hésitation, hein, dans cette hésitation permanente entre un socialisme du local et un socialisme du global, ou un socialisme étatique et un socialisme coopérativiste, il me semble qu'aujourd'hui, le balancier, pour les raisons que j'ai dit, va plutôt du côté de l'expérimentation.
Alors, il y avait trois questions, une là-bas, ensuite Eric, et ensuite Maxime.
Merci beaucoup pour votre présentation. J'ai malheureusement pas lu vos travaux, ni ceux de Wallerstein, que j'ai quand même été passablement irrité par une certaine réduction ou généralisation que vous semblez faire. Reprenez-moi si je me trompe, mais quand vous parlez de communisme, là, comme idée sociopolitique, comme programme, moi, ce que j'ai entendu ou ce que j'ai perçu, que j'ai cru percevoir, c'était que vous parliez de processus économique. Un État bureaucratique centralisé, c'est pas le communisme. T'sais. L'économie planifiée, c'est pas le communisme. Capitalisme d'État, c'est pas du communisme. Ça peut en faire partie, ça en a fait partie dans certains États, mais c'est des réductions, généralisations qui m'ont irrité quand je les ai entendues. Vous parliez du système soviétique. Système soviétique des années 20, c'est pas le système soviétique des années 30, des années 40 qui est rendu un système stalinien d'économie basée sur l'industrie lourde, extrêmement centralisée, qui n'a plus du tout le caractère démocratique qu'elle avait dans les années 10, dans les années 20. Donc, moi, j'ai pas perçu ces nuances-là du tout. Puis aussi, quand on parle d'internationalisme, le concept d'internationalisme, c'est pas ce que le Comecon a fait économiquement dans les années 50. C'est deux choses complètement différentes. Donc, éclairez ma lanterne par rapport à ça, s'il vous plaît. Et puis, ensuite, si l'objectif, c'est d'identifier les forces sociales qui participent à la dynamique pour bon, fissurer, modifier, faire avancer et les régimes capitalistes et les régimes socialistes, je crois qu'on n'a pas besoin d'attendre à Wallerstein pour se pencher là-dessus. Là, et les écrits d'opposition de gauche dans les années 20, en URSS même, en débattent en long et en large. C'est sûr que Korsch, Trotsky, Kollontai sont moins populaires que Wallerstein, mais si on a des bases solides pour critiquer la bureaucratisation des régimes, justement, toutes les portes démocratiques qui se ferment, toutes la banqueroute annoncée du système soviétique, tous ces penseurs-là l'ont écrit en long et en large il y a 90 ans. T'sais. Donc, à mon avis, c'est important de revenir aux sources même de ceux qui l'ont vécu pour en parler avec aplomb. Puis ensuite de ça, vous avez abordé aussi la question que il y a peut-être eu des points positifs où il y a eu une certaine hétérogénéité. Évidemment que le socialiste de Budapest dans les années 50, le socialiste de Prague dans les années 60, le socialiste de Belgrade, c'est pas du tout le socialisme de Moscou. C'est les raisons pourquoi les chars soviétiques ont envahi ces places-là. Les réformes qu'il y a eu là-bas, le socialisme national qu'il y a eu dans ces endroits-là ont ont révolutionné les façons dont on pratique notre droit, notre intervention sociale, notre psychologie, nos mathématiques. Ça a été des effets qui se sont sentis jusqu'ici. C'était vraiment tout à fait marquant. Ça suffit de se pencher sur l'histoire pour les découvrir. C'est l'essentiel de mon commentaire.
Merci beaucoup pour ces questions très intéressantes et très centrales. Alors, d'abord, une question de terminologie. Le mot communisme tel qu'on l'utilise aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. Parce que, fondamentalement, quand on a un regard historien sur les choses, et j'essaye de l'avoir, communisme, ici, ça désigne les expériences de type soviétique. Les expériences de type soviétique, et mon propos était un propos de réflexion sur ce que nous pouvons faire aujourd'hui comme théoriciens de l'expérience qui a eu lieu en Union soviétique et rien d'autre. Bon, donc le communisme, il y a deux choses. Il y a l'idéal politique traditionnel sous cette catégorie, qui est beaucoup plus vieux que le marxisme, qui plonge certainement dans des intuitions religieuses, et puis il y a des sociétés qui ont prétendu être communiste ou s'approcher du communisme, c'est évidemment seulement le second volet, hein, le second usage auquel je me suis rattaché. Mais vous avez raison, en ce sens qu'on ne peut pas utiliser cette catégorie sans précaution. Il faut bien dire qu'on désigne pas, qu'on embraye par là cette manière dont les sociétés se présentaient de façon flatteuse elles-mêmes. Bon, à titre personnel et sous forme de parenthèse, je ne pense pas que quand nous envisageons l'avenir et quand nous souhaitons mettre une étiquette sur nos projets politiques, que nous ayons un intérêt fabuleux à nous exciter autour de ces catégories socialisme et communisme. Je sais que parmi les philosophes européens en particulier, un certain nombre se réclament de nouveau du communisme. On pense bien sûr à Zizek ou à des choses comme ça. Bon, je ne suis pas sûr que cette opération soit utile et clarifiante. Historiquement, le mot socialisme et le mot communisme ont été mis, j'allais dire, à tellement de sources, ont été associés à tant d'expériences, à tant de pensées que toute tentative de clarification me semble aujourd'hui vouée à l'échec. Est-ce que nous sommes obligés aujourd'hui de mobiliser encore ces catégories pour désigner des formes sociales vers lesquelles nous allons? Je n'en suis pas certain qu'on puisse se rattacher positivement à certaines traditions historiquement avérées, comme communisme ou socialisme, certainement. Mais de là à en faire des catégories qu'on mettrait sur notre drapeau, c'est peut-être pas nécessaire. Bon, deuxième réponse possible, la critique du communisme, vous avez raison, c'est quelque chose qui a traversé non seulement la pensée du XXe siècle, mais qui a traversé aussi le marxisme du XXe siècle. C'est pour ça que vos références à Korsch, à Luxembourg, étaient tout à fait... On aurait pu aussi citer le Léon Trotsky, quelqu'un qui était au cœur du système, quand même, qui a été un analyste remarquable des déviances et des dérapages du système. Je ne doute pas que tout cela soit extrêmement productif, et vous aurez remarqué d'ailleurs que j'ai introduit un certain nombre de nuances critiques à l'égard de la notion de totalitarisme. Il me semble que ce que l'on peut attendre d'une mise à distance de la catégorie de totalitarisme, de cette catégorie fascinante, mais qui est un peu une catégorie écran, c'est justement de nous laisser plus d'espace et d'énergie mentale quand nous désirons réapproprier les critiques marxistes, y compris soviétiques, du communisme réellement existant. Voilà, je vais tout à fait dans votre sens. Mettre à distance la catégorie du totalitarisme, qui fut d'abord une catégorie de la froide, c'est une manière de tenir la place à une réappropriation, pourrait-on dire, de ces critiques de la bureaucratie, de la planification, que les marxistes ont su alimenter avec brio. Donc si votre thèse c'est les marxistes ont dit des choses intéressantes contre l'expérience soviétique, je vais à 100% dans votre direction. Simplement, ce qu'apporte Wallerstein, c'est autre chose. Wallerstein apporte un regard d'historien sociologue qui met les choses en perspective sur une très longue durée. Ça ne s'oppose pas aux perspectives que vous avez identifiées, ça les complète, c'est autre chose vraiment, sans qu'il y ait d'opposition à dessiner par là. Ensuite, troisième élément de réponse, je crois qu'effectivement, les expériences communistes ont été si diverses y compris celles qui étaient, on va dire, hétérodoxes, depuis la Yougoslavie de Tito à celle que vous avez citée, mais on pourrait citer aussi la Chine maoïste et post-maoïste, hein, qui continue officiellement à se réclamer du marxisme et du communisme, que la discussion risque d'être confuse. C'est pour ça que j'ai préféré me concentrer sur le cas soviétique, sur l'URSS. Ça me semble, du point de vue de l'histoire de la théorie, et du point de vue de l'histoire tout court, permettre de clarifier un peu les débats. Il y a une diversité, mais les trajectoires économiques et politiques présentent une cohérence et une unité suffisante pour qu'on ait un élément de raisonnement concret. Voilà, je ne voudrais pas non plus que nos référents soient trop divers et que la discussion se perde dans les méandres, hein, d'expériences historiques ambiguës. Partir de l'Union soviétique, historiquement la première, hein, le prototype, la référence absolue, hein, de toutes les expériences socialistes au XXe siècle, c'est, me semble-t-il, nous permettre de clarifier les débats et d'avoir un objet historiographique clairement délimité. C'était simplement au point.
Alors, pour laisser du temps à Maxime par la suite, je vais vous demander de ramasser vos questions. Il faut que ce soit assez courte.
On peut les faire l'un à l'autre. On peut les faire
l'un
à l'autre. Il répondra
d'accord.
En bloc.
Parfait. Okay. Bah, alors, Eric, ensuite.
Cher Julien, je vais être très court. Merci beaucoup pour votre présentation. C'était absolument passionnant. Ça m'a rappelé des vieilles choses sur les cours, sur les économies centralement planifiées dans une quasi autre vie. Alors, vous invitez, je vais reprendre vos termes, à penser le changement. Donc, j'ai repris trois termes de façon détotalisée, décentralisée et incrémentale. Ça m'a évoqué, en fait, tous les débats dans le cadre du Forum social mondial depuis maintenant bien des années autour de la nécessité de privilégier la diversité, en fait, des luttes sociales. J'y ai aussi pensé, d'ailleurs, quand vous avez parlé de la prise du pouvoir, parce que la question de la prise du pouvoir a été pensée aussi au sein du Forum social, à la fois comme étant plutôt un facteur de division. Hein, je pense notamment, par exemple, notamment quand le FSM avait lieu au Brésil, et qu'il était question, justement, de prise de pouvoir dans certains pays, et ce qui s'est passé aussi bien au Venezuela, en Équateur, en Bolivie, hein, notamment... donc en Amérique du Sud. Mais alors j'aimerais donc, je partage votre avis, sauf que j'ai une question, j'aimerais la partager avec vous, en fait, c'est est-ce que cette diversité, en fait, des luttes sociales, l'accent étant mis justement sur la diversité, le pluralisme, est-ce qu'elle ne devrait pas aller de pair, en fait, avec une certaine convergence de ces luttes sociales ? En fait, est-ce que mettre l'accent systématiquement sur la diversité ne constitue néanmoins pas un problème qui empêche justement une certaine convergence au niveau de cette diversité. Et par ailleurs, je pense à une autre articulation qui nous semblerait nécessaire de penser plus, c'est que finalement j'ai l'impression que les luttes de type culturaliste, notamment aux questions identitaires, ont été beaucoup mises de l'avant et ont progressé, en fait, au fil des dernières décennies, mais qu'elles l'ont été essentiellement, en fait, alors je ne dirais pas contre, hein, mais que les luttes, en revanche, sur le plan économique et sur le plan du travail, de la production économique, ont-elles été relativisées, voire abandonnées dans une large mesure. Et ça renverrait à la question de la convergence de l'ensemble de ces luttes. J'aimerais avoir votre avis là-dessus.
Parce que, Maxime, je vais y aller tout de suite après. Je pose la question rapidement parce que c'est un peu en lien avec la première, c'est-à-dire sur les failles un peu épistémologiques de la théorie des systèmes monde. Il y avait un article assez dévastateur qui avait été écrit, je pense, au début des années 80 par Robert Brenner, où il déconstruisait les thèses de Wallerstein et compagnie arrivées que vous avez citées. Sous prétexte, justement, que leur conception du capitalisme est problématique, puis les qualifiait péjorativement de néo-smithienne. C'est-à-dire qu'ils ne prenaient pas en considération la spécificité des rapports sociaux, on pourrait dire spécifiquement capitalistes, au profit d'une théorie, finalement, qui insisterait davantage sur le marché comme étant l'instance d'explication, finalement, du capitalisme. Ce qui vient à poser, à soulever, justement, la question du caractère communiste du socialisme réellement existant. C'est-à-dire, ça revient un peu à la question, est-ce que les thèses de Wallerstein ne sont pas invalidées en sens que ce qui s'est réclamé du socialisme était en fait une variante étatique du capitalisme, dans la mesure où on pourrait dire les caractères centrales du capitalisme, l'industrialisation, le travaillisme, le productivisme, est également présente en URSS. Voici ma question.
Merci pour ces deux questions passionnantes et absolument centrales, d'ailleurs. Alors, à propos des luttes sociales, alors c'est vrai que je n'ai pas introduit ce vocabulaire-là. Moi, je crois qu'il faut distinguer deux choses, et qui peut-être dans la pensée, dans la nébuleuse, dans la galaxie intermondialiste et ses transformations contemporaines, n'a pas été suffisamment distinguée. Je crois qu'il faudrait distinguer les expérimentations sociales et les luttes sociales. Les expérimentations sociales, elles n'ont pas nécessairement la forme d'une lutte, et elles n'ont pas de signification politique immédiate. Je ne sais pas. Par exemple, prenons une entreprise, que ça a été le cas en Argentine après la crise que ce pays a traversée, mais c'est vrai aussi à l'échelle mondiale. Prenons le cas d'une entreprise qui devient coopérative, c'est-à-dire qui est rachetée par ses salariés, qui devient la propriété de ses salariés. Alors il y a maintenant une grande littérature sur ce phénomène-là. Ça m'intéresse parce que, bien qu'il y ait évidemment des luttes syndicales, par exemple, qui se greffent à ces phénomènes-là, c'est l'évidence, on n'est pas dans une vision où c'est la lutte pour un certain programme politique qui importe. Ici, c'est l'expérience. Moi, je dirais que si intéressante que soit la question des luttes sociales, et si intéressante que ce soit sur le plan philosophique, beaucoup de philosophes contemporains, en Europe surtout, mais c'est aussi vrai en Amérique, focalisent sur l'importance de la lutte sociale. On peut penser, pour prendre des exemples européens, à Sierre, à Libar, ou à Chantal Mouffe, ou à Ernesto Laclau, focalisent sur cette question de la lutte sociale. Moi, j'aimerais dire qu'une pensée, qu'une philosophie, qu'une sociologie de la lutte sociale, des luttes sociales, perd un peu de substance et perd un peu peut-être d'intérêt si elle ne se base pas sur une philosophie des expérimentations économiques, politiques, concrètes, organisationnelles, qui existent au niveau des quartiers, au niveau des villes, au niveau des entreprises, au niveau des communes. Je pense qu'il y a vraiment une nécessité de rappeler ce terreau, cette infrastructure qui est présente dans le mouvement altermondialiste. Pensons au mouvement des paysans qui savent très bien que c'est une nouvelle organisation de la vie collective et des pratiques agricoles qui est l'essentiel. Bon, donc voilà, ramener les luttes sur le terrain des exploitations, ça me semble être important. Alors du coup, c'est plus difficile de penser à la convergence. C'est vrai, entre des tentatives d'introduire plus de démocratie locale au niveau d'une commune, et la reprise d'une entreprise par ses salariés, il y a des distinctions, il y a des différences qui sont insurmontables et qui, en quelque sorte, n'aspirent pas à la découverte d'un langage commun. Plutôt qu'en termes de convergence, j'ai envie de dire qu'il faut faire confiance à l'idée d'une agrégation capable de faire basculer les choses. Plutôt une manière de penser la constitution d'un rapport de force nouveau que, dans leur diversité, les expérimentations sont capables de créer. Donc, lutte sociale et politique sur la base, peut-être, complémentarité des expérimentations plutôt que l'inverse. Deuxième série de questions, je serai plus rapide. J'ai lu il y a quelque temps, je ne l'ai pas complètement en tête, le texte effectivement classique de Brenner et la critique du néo de la position sienne qui est prêtée à Wallerstein. J'avoue n'avoir pas été complètement séduit, parce que la force de Wallerstein, c'est quand même de poser les questions au niveau global, au niveau mondial. Et l'histoire globale contemporaine a validé, entre guillemets, cette position-là. Brenner, il ne faut pas l'oublier, historiquement, ça fait partie des économistes et des penseurs qui ont valorisé, disons, les caractères endogènes du développement de l'économie capitaliste britannique. C'est-à-dire qu'en gros, ce sont de nouveaux rapports de classe dans le monde paysan britannique qui auraient décidé de l'avènement du capitalisme. Le décentrement géographique, la volonté de penser les choses en termes globaux, ne me semble pas se réduire à une réduction du capitalisme à l'échange marchand. Je pense que c'est quelque chose de très injuste, parce que chez Wallerstein, l'idée que les rapports mondiaux sont aussi des rapports d'exploitation, sont aussi des rapports qui traversent l'univers du travail, me semble être central. Donc voilà, l'importance du travail, l'importance de l'exploitation, l'importance des échanges au niveau mondial ne me semble pas contredire la position wallensteinienne. Hein. Donc voilà de façon très brève, hein, dont je pouvais répondre. La position de Wallenstein me semble très intéressante, et ce que l'on peut dire, c'est que par rapport au cas d'un capitalisme centralisé qui serait instancié par l'Union soviétique, la réponse que je est la suivante. Je pense que Wallenstein et ses disciples n'ont jamais voulu dire que c'était une variante, et c'est pour ça que c'est intéressant, que c'était une variante du capitalisme. J'ai envie de dire, ils ont pris en considération l'originalité radicale de cette expérience-là. Ils n'ont pas dit, comme on a pu le dire dans les années 70, qu'au fond, c'était un capitalisme d'État, hein, l'expression très utilisée tout au long du XXe siècle, que c'était un capitalisme bizarre, un peu déformé. Ils ont vraiment sérieusement pris en compte l'originalité, la singularité de cette expérience-là. Simplement, ils ont réinscrit cette singularité dans un cadre plus large, et cette position me semble la bonne. C'est-à-dire, si d'emblée on dit, bon voilà, le communisme à la soviétique, c'était jamais qu'une variante du capitalisme avec taylorisme, on n'ira pas loin, parce que les structures étaient vraiment très éloignées, hein, du capitalisme, mettons, états-unien de l'époque. Il y a une vraie singularité, il y a une originalité et une différence. Simplement, c'est le contexte d'inscription de cette différence qui marque, disons, cette absence de radicalité que Wallenstein prête à l'expérience soviétique.
Bon, ben, merci Stéphane. Je vais donner maintenant la parole à Maxime. Donc, voilà. Alors, Maxime. Oui.
Je voulais juste signaler que je ne pourrais pas rester, j'écouterai la conférence, mais je ne serai peut-être pas présent pour l'ensemble de la discussion. Merci en tout cas beaucoup à vous.
Alors, Maxime. Oui, alors, pour présenter quand même Maxime rapidement. Maxime Ouellet est professeur à l'École des médias de l'UQAM et chercheur au Centre de recherche interuniversitaire sur la communication, l'information et la société, donc le CRISIS. Il a coécrit et dirigé avec Eric Martin Université Incorporated, des mythes sur la hausse des frais de scolarité et l'économie du savoir, donc en 2011. Et le titre de sa présentation est donc Aliénation et fin du monde dans le capitalisme cybernétique.
Alors, je vais tronquer ma biographie.
Ah bon?
Ouais, ben, ça pourrait m'être coupé, c'est pas grave. Ben, parce que ce que je vais présenter, c'est plus. Finalement, ce que j'ai présenté dans mon dernier livre qui s'intitule « La révolution culturelle du capital ». Donc, je vais en présenter les principales thèses, bon, du moins certaines, parce qu'on m'a demandé de présenter quelque chose sur l'aliénation. Donc, en guise de préambule, je vais commencer par une citation célèbre, en fait, qui est celle de Frédéric Jameson, qui dit « On s'imagine aujourd'hui plus facilement la fin du monde que celle du capitalisme », qui va être repris par Gizek en boutade en disant on se contente de réclamer un capitalisme à visage humain, comme on parlait hier d'un communisme à visage humain. Regardez la science-fiction. Visiblement, il est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. Alors, effectivement, je vais m'interroger sur cette imaginaire, ou du moins ces représentations de la fin du monde. Tel qu'on peut l'observer dans différents discours ou productions médiatiques. Bon, ici, c'est l'exemple d'une publicité de Vidéotron il y a quelques années, dont le slogan était « La fin du temps est arrivée », qui visait finalement à mettre en marché un nouveau produit de téléphonie cellulaire. Également, c'est-tu planté? Ah, non, je ne vais pas voir. Je ne la présenterai pas. Ah, je ne sais pas pourquoi. Ah, OK. Autre exemple, finalement, de représentation télévisuelle de la fin du monde. En fait, c'est une télé-réalité qui était produite pour National Geographic qui s'intitulait, qui était traduite en français sous le titre de « Famille Apocalypse » qui présente des familles de survivalistes. Donc, c'est une forme de télé-réalité qui appréhende, justement, cette idée de fin du monde. Puis, on la retrouvait également... un petit peu auparavant, ça c'est une campagne publicitaire, on va dire de propagande, du moins de film puis une campagne promotionnelle qui était faite par le gouvernement britannique à la fin des années 70, au début des années 80, coïncidant avec l'ère Thatcher, finalement, c'était une campagne qui visait à faire, finalement, la promotion, ben, pas la promotion, mais qui incitait les gens à se préparer à un éventuel apocalypse nucléaire. La campagne s'appelait Protect and Survive, puis regardez, je vous mettrai pas les films, mais c'est assez fascinant. Je passe des nuits, moi, à regarder ces films-là. Il y en a pendant des heures. J'ai téléchargé également le petit livret. C'est éducatif, finalement. Mais la campagne, d'un point de vue, on pourrait en faire l'analyse sémiologique assez fascinante. Elle préfigure, finalement, l'ère Thatcher dans la mesure où, vous rappelez, Thatcher disait « There's no such thing as society ». Il y a seulement des individus et une famille. Puis c'est exactement ce qu'on présente ici. Puis également, si on regarde les différentes campagnes, il y en a une, bon, on nous incite constamment à trouver son « inner refuge », hein, son refuge intérieur, qui fait écho, selon moi, justement à cette espèce de subjectivité très solipsiste au fondement de l'idéologie libérale qui dit, dans le fond, qu'il n'y a que des individus qui délibèrent dans leur fort intérieur. Donc, puis juste pour conclure, finalement, mon préambule, ça, c'est à l'époque, justement, un bouquin qui avait été écrit et édité par E.P. Thompson, qui est en réponse à cette campagne britannique qui s'appelait, justement, « Protest and Survive ». Puis je vais revenir sur Thompson plus tard dans ma présentation parce que je vais essayer d'articuler justement certaines de ses idées qui s'appuient sur les thèses de matérialisme culturel que je vais essayer d'élaborer justement eu égard à cette conception finalement de la fin du monde. Donc, la question que je veux poser dans mon exposé, c'est devant, on pourrait dire, cette omniprésence de toutes sortes de discours publicitaires, médiatiques, académiques qui portent sur la fin du temps ou la fin du monde, je voudrais pousser plus loin la réflexion de Jameson en posant la question de savoir si l'imaginaire, finalement, de la fin du temps ou de la fin du monde, appelons-la comme on veut, n'est peut-être pas spécifique à notre condition qu'on pourrait appeler postmoderne. Ce qu'il s'agit de se demander, si il ne s'agirait pas là de la généralisation d'un processus dont le fondement se trouve au cœur des contradictions, on pourrait dire, de la modernité capitaliste en tant que processus fondamentalement contradictoire. C'est en s'appuyant notamment sur certains travaux de relecture de Marx contemporaine, notamment celle faite par Frank Fischbach et Jean Vioulac, qui essaient de combiner justement les apports de Marx et de Heidegger. Ils essaient justement de montrer que la fin du monde, ou la catégorie de fin du monde, elle correspond à ce qu'ils appellent la condition d'un être qui est privé de monde. Justement, on pourrait dire qu'il est condamné à errer dans un espace virtuel, dans un temps également abstrait, qui correspond au final au régime spatio-temporel qu'on pourrait qualifier de spécifiquement capitaliste. On pourrait dire que ce type de régime spatio-temporel s'incarne à l'heure actuelle dans ce qu'on pourrait appeler, on appelait autrefois le cyberespace, où justement circulent des flux monétaires complètement dématérialisés et où surfent des individus, comme dirait Deleuze, qui sont détachés de tout espace de vie concret. D'ailleurs, le concept d'individu, il n'est pas deleuzien, il faut se rappeler qu'il est de Gunther Anders dans L'obsolescence de l'homme, qui avait été écrit en 1956. Où il faisait justement, Anders, c'est un penseur plutôt apocalyptique. Mais justement, je veux me sortir de cette vision du monde, de fin du monde, de la catégorie fin du monde apocalyptique, donc je ne m'appuierai pas sur Anders qui disait qu'on vit finalement dans un délai. Hein? La fin du monde est déjà arrivée, nous vivons dans un délai. Je ne m'appuierai pas sur ces thèses, mais plutôt reprendre certains éléments de la pensée, notamment de Michael Fessel, qui écrit un livre également sur la question de la fin du monde, où il dit qu'il faut justement se garder de voir l'imaginaire de la fin du monde comme étant la réalisation d'une prophétie apocalyptique. Il dit, au contraire, qu'il s'agirait d'un fait moderne par excellence parce qu'il se caractérise par la disparition de la représentation du monde comme cosmos, donc représentation du monde qui était celui des anciens, c'est-à-dire d'un ordre hiérarchisé dans lequel l'homme occupe une place privilégiée au sein d'un monde qui possède un sens déjà prédéterminé. L'intérêt de l'analyse, justement, pour une approche, on pourrait dire, matérialiste, culturelle, c'est que cette origine de la perte en monde, où on peut la trouver au fondement de la doctrine de la prédestination, qui est au cœur, finalement, de l'analyse de l'esprit du capitalisme, proposé par Max Weber dans l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Selon Weber, justement, c'est dans l'activité de transformation de la nature, c'est-à-dire par son travail, que l'ascète protestant va trouver les signes de son élection, hein, qui lui permettrait justement, donnerait un signe, une possibilité d'avoir accès à la vie éternelle. Hein, donc, le protestantisme, dans la thèse weberienne, serait à l'origine finalement d'une certaine conception, d'une représentation culturelle du capitalisme, dans la mesure où le protestant accepte comme fatalité l'idée que la société ne peut pas être changée. Puisque la société, au final, est fondamentalement mauvaise et naturellement intransformable, il ne reste plus qu'à se changer soi-même, hein, en intériorisant une rationalité comptable qui serait plus adaptée à un monde désenchanté. On pourrait retrouver là, à l'heure actuelle, l'idéologie néolibérale est une laïcisation de ces premières prophéties pertes en monde qu'on retrouvait au cœur probablement de l'esprit du capitalisme. Donc, dans cette lecture, hein, la fin du monde, on pourrait dire qu'elle se caractérise justement par un univers qui est mystifié par une forme de fétichisme technologique, hein, où lorsque c'est la technique qui médiatise les rapports sociaux, elle vient produire, hein, des effets de spatialisation où des sujets où ce sont finalement des appareils, des dispositifs cybernétiques qui viennent cadrer et enfermer l'horizon de possibilité des êtres humains. Ce que je vais revenir dans ma conceptualisation de capitalisme cybernétique. Hein. Justement, parce que la spécificité, on pourrait dire, des techniques de divertissement ou de distraction moderne étant de disperser l'individu, hein, c'est-à-dire de sa capacité à se rattacher à un monde et à une localisation spatiale précise. On pourrait dire que le individu, il erre dans un no man's land, il est partout, il nulle part à la fois, il vit dans un présentisme perpétuel. Donc, cette logique qu'on peut appeler d'abstraction de l'espace et du temps, qui est au fondement de la subjectivité capitaliste moderne, on pourrait dire qu'il culmine avec l'époque de la globalisation contemporaine. Globalisation dont on peut dire qu'elle s'inscrit finalement en droite lignée de la domination d'une idéologie, qui est l'idéologie libérale occidentale qui se propulse sur l'ensemble de la planète. Qui repose également sur un imaginaire social voulant qu'il n'existerait aucune autre manière d'être dans le monde, hein, pour revenir sur la notion de fin du monde, que celle qui est proposée par la démocratie de marché, la surproduction et la surconsommation. Hein. On pourrait dire que dans le capitalisme globalisé, informatisé, en ce sens-là, on assiste à une dissolution du politique en tant que capacité d'instituer les finalités collectives, hein, substituant de cette capacité politique par des mécanismes cybernétiques de gestion automatisée des problèmes sociaux. Hein. Donc, souvent, transition ou transformation qu'on a qualifiée par le qualificatif de passage du gouvernement à la gouvernance qui est à l'heure actuelle, qui est régie à l'heure actuelle sous la forme d'algorithme. Donc, préambule, qui vise à placer les catégories, ou moins la catégorie de la question de l'aliénation et de la fin du monde. Donc, je vais revenir dans ma présentation en trois temps. Premièrement, sur la question de l'aliénation et de ce que j'appellerais le capitalisme cybernétique. Deuxièmement, la question du régime spatio-temporel de la modernité capitaliste. Et pour terminer, j'aimerais revenir sur la question qui est abordée, notamment par... Tout à l'heure, on a parlé un peu des communs. Pour essayer de penser cette question-là, la notion, réfléchir à la notion de commun comme un horizon de possibilités post-capitalistes dans le contexte actuel. Donc, dans un premier temps, je disais, en parlant tout à l'heure de Thompson, que mon intention est de produire, de proposer une approche qu'on appelait matérialiste culturelle, telle que, finalement, les travaux initiaux de ce qu'on appelle maintenant les cultural studies le voulaient à l'époque. Les travaux de Thompson, les travaux de Raymond Williams m'apparaissent pertinents en ce sens-là, dans la mesure où ils visaient à saisir la nature des médiations sociales dans les sociétés capitalistes qui sont constitutives également des manières de se représenter le social. Hein. Il s'agit d'une approche, fondamentalement inspiré de Marx, hein, pour qui, justement, l'essence de l'homme, c'est l'ensemble des rapports sociaux. Donc, dans ce contexte, on peut dire que la spécificité du capitalisme consiste dans le fait que ces rapports sociaux sont médiatisés par le travail, la marchandise et la valeur, et qui sont constitutifs d'une manière particulière d'être dans le monde, pour reprendre la formule heideggerienne. Donc, en ce sens-là, les catégories, bon, à la fois de fétichisme et d'aliénation, m'apparaissent pertinentes pour comprendre les formes de subjectivité qui sont propres à l'époque capitaliste, qui sont critiquées par Marx, principalement dans ses écrits de jeunesse. Mais ce que j'essaie de montrer aussi, c'est que cette pertinence de ces travaux-là, se retrouve également dans ces travaux qui sont sur la critique de l'économie politique. Donc, justement, je disais tout à l'heure, les relectures contemporaines de Marx ont essayé de montrer, bon, une certaine similitude, justement, entre les ontologies heideggeriennes et marxiennes, qu'on retrouve notamment dans les travaux du jeune Marx, lorsqu'il aborde la question de l'aliénation. Hein. Il reste qu'il faut se garder de concevoir l'aliénation tel que décrit dans les manuscrits de 44 à partir d'une conception essentialiste et transhistorique de l'être. Hein. Il importe justement d'historiciser cette conception de l'aliénation qui, chez Marx au départ, apparaît dans sa conceptualisation de l'aliénation du travail. Puis en ce sens-là, elle rompt justement avec la conception asociologique, on pourrait dire, d'Heidegger, lorsqu'il traite de la conception de l'être dans le monde. C'est pourquoi, justement, Lukács disait hein, il faut sociologiser les catégories ontologiques et ontologiser les catégories sociologiques. Puis d'ailleurs, le lien entre Lukács et Heidegger, bon, souvent a été montré que, bon, un avait lu l'autre, peu importe. Donc, l'étude hein, du concept d'aliénation permet de constater que la relation, les rapports sociaux propres au capitalisme, justement, je pense que c'est un des apports de ce qu'on appelle le matérialisme culturel, ne peuvent se comprendre en dehors de leur dimension à la fois matérielle et symbolique. Hein. Lorsque Marx définit dans ses écrits de jeunesse l'aliénation du travail, bon, il explique, on le sait, comment la séparation du travail, du travailleur des produits de son travail génère un processus de séparation du sujet avec l'objectivité sociale. Hein, laquelle vient s'imposer comme une réalité extérieure aux individus. Donc, il est nécessaire justement d'appréhender l'aliénation à la fois dans sa dimension subjective et objective, comme le fait Stéphane Haber notamment dans ses travaux. Hein. Dans sa dimension symbolique, on peut dire que hein, l'aliénation réfère à l'autonomisation et à la domination des moments imaginaires dans l'institution, pour parler comme Castoriadis. Hein. On peut dire en gros que dans une société aliénée, la société ne reconnaît plus. Son imaginaire et ses institutions comme étant les siennes. Donc, l'aliénation du travail explique justement comment la séparation du travailleur des produits de son travail, des produits qu'on peut appeler de son activité vitale, se caractérise par une perte de l'objectivité, ce qu'on peut appeler une perte en monde, hein, dans les formulations plus contemporaines d'Anna Arendt. Donc, l'aliénation consiste en une perte d'objectivité. Puisqu'elle se manifeste comme la séparation de l'être humain conçu comme un être objectif, des liens hein, qui l'unit avec d'autres êtres objectifs et des liens qui l'unit avec la nature. Hein. L'aliénation du travail a ceci de particulier hein, qu'elle se présente, ou du moins l'aliénation moderne, dans le monde moderne, se présente paradoxalement comme une émancipation. Hein. C'est ce que rappelle Viulac dans ses travaux sur la critique de la technique, où il dit « Le terme émancipation provient du latin qui veut dire ex manu capere, qui veut dire se laisser prendre des mains quelque chose, s'en dessaisir et ainsi lâcher prise. Hein? » Donc, si Marx définit l'être humain comme un « tool-making animal » dans le Capital, il faut dire que l'aliénation du travail, elle possède nécessairement une nature technique. Hein? Donc, le travailleur aliéné est celui qui a été dépossédé des conditions objectives de réalisation de son être pour se voir ensuite dominé par un dispositif technique autonomisé sur lequel il apparaît qu'il n'a aucune prise. Hein? Donc, la puissance humaine aliénée se matérialise notamment dans la machine qui consiste en l'incarnation technique du capital. Si on prend les chapitres de Marx sur le machinisme, c'est assez clair. Hein? Donc, on pourrait dire que la force et la prégnance de l'aliénation contemporaine, elle repose sur le fait qu'en même temps, l'individu ou l'être qui se voit dépossédé des possibilités de réalisation de sa nature sociale apparaît la figure de la subjectivité libre. Hein. Le sujet libre, on pourrait dire, c'est l'individualisme possessif. hein, qui avait été très bien analysé dans les travaux de C.B. McPherson à l'époque, hein, c'est-à-dire représentation philosophique d'un sujet solipsiste, qui a été libéré de l'ensemble des liens objectifs qu'il entretenait avec d'autres êtres objectifs et avec la nature, hein, pour être plongé hors du monde. Donc, on peut dire que dans le contexte contemporain, la demande d'autoréalisation, d'autonomie, de libération, de même que la capacité de se dégager, de se délier, de se brancher, de se rebrancher, hein, de manière tout à fait libre, est réalisée d'une certaine manière, de manière paradoxale, par les nouvelles technologies de communication. Hein, capacité de branchement, de débranchement, qui correspondent à une conception purement libérale de la liberté. Capacité de déliaison. Plutôt que d'y voir une réelle libération, on pourrait dire qu'il s'agit là de la forme la plus adéquate de l'aliénation, puisqu'elle implique une dissolution du politique, c'est-à-dire une impossibilité d'instituer des finalités communes à la vie en société. En ce sens-là, on peut voir l'aliénation comme une perte du monde commun. Puis, les mécanismes de cybernétique de régulation de la pratique sociale, sous une forme algorithmique, étant sa matérialisation la plus prégnante. Hein. Donc, si on suit Marx, encore une fois, on peut dire que c'est uniquement avec le développement de la production industrielle que le capital rejoint son concept. Hein, c'est-à-dire, dans des formules très hegéliennes du capital, où il se fait sujet, hein, auquel font face des travailleurs qui sont transformés en pur appendice d'une machine. Hein. Donc, ce qui est pertinent, je dirais, pour une approche culturelle, ou l'approche plutôt matérialiste culturelle, notamment dans l'analyse des médias de communication, dans le processus de globalisation contemporaine, c'est de voir, par-delà, finalement, comprendre comment, finalement, justement, la globalisation a institué, on pourrait dire, le capital comme sujet historique de la modernité, dans la mesure où, on pourrait dire, qu'il devient, hein, un sujet qui communique de manière purement référentielle, la valeur en vue de s'auto-valoriser. Hein? Donc, on pourrait dire qu'historiquement, le déploiement, hein, du processus de valorisation capitaliste a généré un processus d'abstraction, hein, qui peut être associé à une espèce d'instrumentalisation des rapports symboliques par le capital. Un processus de désymbolisation qui mène, à l'heure actuelle, à une machinisation des rapports symboliques. Hein? Qui s'apparente à ce qu'on retrouve dans le sens du travail. C'est-à-dire, Lazzarato va dire, dans Gouverné par la dette, que le capital est un opérateur sémiotique et non linguistique. C'est-à-dire qu'il institue des rapports sociaux qui n'ont pas à passer par la relation langagière ou intersubjective. Il dit, les signes sont des moteurs sémiotiques de ces machines et constituent le langage assignifiant à travers lequel elles communiquent entre elles, avec d'autres êtres humains et avec des humains. Mais il faut voir là qu'il s'agit finalement d'une forme de représentation, puisque le capitalisme qu'on pourrait appeler cybernétique, tel qu'il se manifeste dans le high-frequency trading ou dans les big data encore, se nourrit finalement de notre activité symbolique pour produire cette dynamique, pour dire machinique symbolique, hein, cette machinisation du symbole. Mais l'intérêt ici, hein, étant de dire que cette dynamique fétichisée, les objets ne sont plus animés seulement métaphoriquement, comme dans les thèses du fétichisme marxien, mais bien réellement, hein, lorsqu'on parle notamment d'Internet des objets, où les objets communiquent entre eux. Hein, il y a bien là une forme d'inversion symbolique. Donc, inversion de la pratique sociale qu'on retrouvait dans le capitalisme tel que Marx le décrivait au 19e siècle, qu'on retrouve également dans une forme de capitalisme qu'on peut appeler cybernétique, qui génère une inversion des médiations symboliques où les machines communiquent entre elles des informations et auxquelles les individus doivent rétroagir. Hein, ce qui correspond essentiellement aux théories de Hayek sur le marché. Cette autonomisation, on pourrait dire, des médiations symboliques, elle découle d'un processus de sous-traitance, hein, des mécanismes de production de la subjectivité vers ce que justement l'école de Francfort appelait les industries culturelles, hein, télévision, marketing, à l'heure actuelle, Internet, médias sociaux, etc. Donc les dispositifs de captation de l'attention, qui sont celles des technologies numériques contemporaines, visent à mettre en place ces processus de prise de décision automatisés, tels qu'on retrouve justement dans les big data ou dans le high frequency trading. Selon Stigler, cette dynamique mène à un processus de prolétarisation généralisée. Par prolétarisation, il dit qu'il faut comprendre par là la dépossession, l'extériorisation et la captation par la machine de l'ensemble des savoir-faire, des savoir-vivre et des savoirs théoriques qui sont au fondement de l'essence symbolique de l'être humain. En ce sens-là, on peut dire que les contradictions de la postmodernité capitaliste contemporaine se manifestent par cette incapacité à édifier un monde commun, c'est-à-dire un monde qui est constitué par des êtres raisonnables. Il s'agit là de voir tout le phénomène, des bulles, un phénomène autistique qui est généré par les médias sociaux où on observe un repli sur eux-mêmes de l'ensemble des différentes subjectivités. Donc, incapacité finalement de construire un langage commun. Donc, incapacité à faire monde qui signifie, on pourrait dire, le début de la fin du monde. Deuxième point que je voulais aborder, la question justement du régime spatio-temporel de la modernité capitaliste, puisque la catégorie de l'aliénation telle que Marx la développe, elle permet d'expliciter, on pourrait dire, les formes spécifiquement capitalistes de domination, telles qu'elles sont expliquées par, également certaines relectures contemporaines de Marx ou en théorie critique, où on dit que les médiations qui sont constituées du capital imposent des contraintes quasi-objectives qui s'expriment principalement sous la forme de la domination des individus par le temps. Domination des individus par le temps qui se caractérise, je dirais même des sociétés par le temps, qui se caractérise par une désynchronisation grandissante entre les exigences d'accélération sociale qui proviennent de l'économie capitaliste moderne et finalement le monde vécu. On prenait des catégories habermasiennes qui sont en soi problématiques, mais sont éclairantes. Ce qu'on appelle justement la compression spatio-temporelle, qui est propre à l'ère de la globalisation, il faut voir là qu'il s'agit de l'aboutissement et de la généralisation d'un processus dont le fondement, on peut retrouver les fondements dans la représentation symbolique d'un temps et d'un espace abstrait qui est au cœur de la modernité capitaliste. Conception qui apparaissent finalement avant même les technologies modernes de communication. Puis c'est pourquoi d'ailleurs il faut dépasser justement la dichotomie très marxiste entre base et superstructure pour proposer justement comment il y a des catégories, du moins des représentations symboliques qui sont des conditions de possibilité de l'apparition de certaines pratiques. Donc, dépasser la dichotomie qu'on retrouve justement en sciences sociales, entre des approches qui affirment que soit les pratiques économiques déterminent les représentations culturelles, ou bien inversement, que ce sont les représentations qui sont déterminantes, afin de montrer plutôt que ce sont que les unes et les autres sont en rapport avec une forme particulière, des formes particulières de médiation sociale. On peut dire que dans le champ, justement, dans l'étude des communications, cette approche matérialiste culturelle permet de comprendre comment les catégories de la pensée à partir de laquelle les individus interprètent l'information médiatique sont le produit de médiations sociales qui sont porteuses, notamment de conceptions spécifiques d'espace et du temps. Puis on pense aux travaux d'Harold Innis, notamment, qui est très pertinent pour comprendre justement la dynamique actuelle de globalisation, puis le rôle des médiums de communication dans cette dynamique. Donc, médiations qui sont constituées justement de la construction de l'identité des sujets. À une critique qui va par-delà, finalement, l'analyse du contenu idéologique des médias pour montrer comment ce ne sont pas uniquement les contenus de la pensée qui sont déterminés par, on pourrait dire, la forme-valeur, mais les catégories de la pensée elle-même qui sont fétichisées. Donc, reconnaître que matérialité et idéalité ne sont pas opposées, puisque le réel est composé à la fois d'éléments matériels et idéaux. On peut dire, à partir de cette perspective, que le capitalisme ne peut se déployer pleinement qu'au moment où les individus ont été arrachés à l'expérience subjective, concrète qu'ils entretenaient avec la nature, pour être projetés dans une nouvelle forme de domination qui est qui se présente de manière rationalisée, mais qui est celle de la valeur, hein, de la loi de la valeur. Donc, on pourrait dire que la catégorie de la valeur, hein, elle joue le même rôle que les catégories a priori chez Kant. Hein. Mais contrairement à Kant, hein, ces catégories relèvent d'une conception qui relève plutôt d'une conception transhistorique, notamment de l'espace et du temps. Si on relit les travaux d'Alfred von Rettel, hein, on pourrait dire que Marx pose ces catégories comme étant sociales, hein, puis découle donc de pratiques historiquement déterminées. Donc, on peut dire que la catégorie de la valeur telle que Marx l'analyse, hein, est une abstraction réelle. C'est la thèse de von Rettel qui structure a priori une conception abstraite de l'espace et du temps. Donc, l'inversion, on pourrait dire, de l'activité vitale, hein, qui est le propre du capitalisme, n'est possible, hein, sa condition de possibilité, c'est une conception, c'est d'avoir une conception abstraite du temps. Hein. Puis ça, c'est les travaux d'E.P. Thompson sont majeurs là-dessus. Le livre qui a été traduit en français s'appelle « Temps, discipline du travail et capitalisme industriel », hein, où il montre que, finalement, le capital institue une nouvelle conception abstraite du temps, le temps de l'horloge. Le temps de l'horloge qui vient se substituer au temps concret à l'intérieur duquel s'inscrivaient les pratiques dans les sociétés précapitalistes. Hein. Le temps abstrait, bon, justement, c'est le temps de l'horloge qui est mesurable, décomposable et quantifiable. Il s'agit finalement d'une norme temporelle qui est instituée socialement et qui permet de quantifier l'ensemble de l'activité sociale, qui va s'imposer justement comme une nouvelle discipline dans les usines et dans l'ensemble de l'activité sociale. C'est le fameux adage de Benjamin Franklin, hein, qui va être repris également par Max Weber, qui dit « le temps, c'est de l'argent ». D'ailleurs, hein, Lewis Mumford, dans son bouquin qui s'appelait « Technique et civilisation », va dire « La machine clé de l'âge industriel moderne, ce n'est pas la machine à vapeur, c'est l'horloge. Dans chaque phase de son développement, l'horloge est le fait saillant et le symbole de la machine. » Donc, le temps, on pourrait dire, consiste ainsi en une forme spécifique de domination dans les sociétés capitalistes, celle des individus qui sont dominés, hein, par leur propre travail, donc sont plongés dans un présent perpétuel, puis contraints de s'adapter et de se transformer pour être constamment, pour constamment être de leur temps, pour reprendre un adage populaire. Donc, on pourrait dire, à ce temps homogène et abstrait correspond également une conception homogène et abstraite de l'espace qui rend possible l'échange marchand, hein, qui est une condition de possibilité qui résulte notamment de l'institution du système métrique à la fin du 18e siècle, hein, qui vient proposer des mesures également homogènes et abstraites. Cette institutionnalisation d'une conception abstraite de la longueur s'avère finalement tout à fait conforme avec la vision du monde qui correspond à la physique newtonienne. Là-dessus, il s'agit de voir comment l'ensemble de la pensée économique moderne est fondamentalement inspirée par les conceptions newtoniennes de la physique, hein, qui visent à en faire finalement une science pure. Les travaux de Philip Mirovski, là-dessus, il écrit un bouquin qui s'appelle « More Heat Than Light », où il montre finalement que les postulats de la science physique moderne, hein, ne sont possibles qu'en vertu de l'abstraction des qualités concrètes des choses, ce qui permet justement leur mesure et leur calcul. Puis c'est ces postulats-là qui vont être pris dans l'économie politique moderne. On pourrait dire qu'en ce sens-là, hein, la physique se trouve au fondement même de la conception actuelle d'un monde tel qu'il se présente comme étant un gigantesque flux d'informations. Je vais avancer un peu, il reste 15 minutes. Hein. Donc, justement, si je reprends Mumford, il va dire que avec la modernité, hein, la mécanique va devenir la nouvelle religion et va lui donner un nouveau messie, la machine. En ce sens-là, la croyance au pouvoir de libération des formes d'interdépendance sociale au moyen de la technique, hein, de la mise en réseau et de la virtualisation des rapports sociaux, on pourrait dire qu'il se trouve au fondement même de l'imaginaire moderne. Hein, c'est un phénomène moderne par excellence qui va culminer aussi dans la formule saint-simonienne, hein, du passage du gouvernement des hommes à l'administration des choses. Hein, on pourrait dire qu'il résume assez bien l'ère contemporaine. On pourrait dire que, pour conclure cette section, que la libération des attaches, hein, qui liait les individus, à la fois au temps et à un espace concret, hein, au sein d'une communauté, sont la précondition de l'accumulation capitaliste, le capital ne rejoint, arrive à son apogée, atteint sa spécificité que lorsque Marx va parler de la subsomption réelle. C'est-à-dire que l'individu qui a été justement arraché violemment au lien qu'il entretenait avec la Terre, notamment, on pourrait dire, dans la phase initiale de ce que Marx appelait l'accumulation primitive, il se retrouve seulement soumis formellement au capital. Le passage, la soumission formelle à la soumission réelle, elle s'effectue lorsque l'activité concrète du travailleur n'est plus la source principale de la production de la richesse matérielle. La soumission réelle apparaît quand c'est le temps historique objectivé qui devient le principal facteur de production. Ce temps historique objectivé correspond finalement à l'état général, ou du moins à ce qu'on pourrait appeler le patrimoine intellectuel, culturel et scientifique de l'humanité. Ce que Marx va retraduire dans certains passages des Grundrisse comme étant le general intellect, sur lequel, donc concept sur lequel va beaucoup se baser les analyses négristes, justement, qui portent sur le capitalisme cognitif. Analyses qui sont quand même tout de même critiquables, assez problématiques dans la mesure où elles ne sont pas très dialectiques. Puis c'est justement sur ce point que je vais rebondir pour arriver à ma conclusion. Une petite minute environ. 13 minutes, parfait. Justement, pour traiter de la question du commun. Du commun comme horizon, on pourrait dire, post-capitaliste, comme possible post-capitaliste dans à l'ère contemporaine, parce que, bon, ce concept-là est repris par plusieurs auteurs, dont Hart et Negri dans leur dernier bouquin qui s'appelle Commonwealth, qui propose au final une vision très naturaliste, très spontanéiste, qui voit dans le commun une espèce de processus qui émergerait spontanément. Vision qui est problématique pour plusieurs raisons, puis notamment pour une bonne, c'est qu'elle inspire beaucoup, selon moi, les mouvements sociaux contemporains, à laquelle il faut opposer, selon moi, ou du moins qu'il faut rappeler que le commun, ce qu'on appelle le commun, ce n'est pas possible sans institutions. Sans institutions qui régissent a priori l'usage et l'activité de mise en partage de la chose commune. Bref, sans une politique du commun, puis je pense que c'est l'apport ici de Dardot et Laval dans leur dernier bouquin de montrer ça. On va dire que l'approche naturaliste du commun, qui est en vogue dans une certaine frange de la théorie critique, puis notamment chez les théoriciens du capitalisme cognitif, on pourrait dire qu'elle reproduit une vision du monde qui, au final, se révèle très libérale, voire même, je dirais, néolibérale. Elle postule que la libération de l'ensemble des règles, des normes instituées socialement pourrait produire spontanément un processus d'autorégulation sociale. On retrouve à peu près le même type d'analyse chez des auteurs libéraux qui soutiennent que la culture de la collaboration et de participation dans les médias sociaux serait nécessairement en contradiction avec la logique marchande. C'est sûr qu'on ne peut pas nier que, bon, il y a un certain caractère collaboratif et participatif qu'on retrouve dans les médias sociaux qui peuvent potentiellement permettre de cultiver une pratique de résistance face à différentes formes de marchandisation du monde qu'on retrouve notamment dans l'Internet. On doit tout de même se demander si l'éthique, ce qu'on peut appeler l'éthique hacker, qui est mobilisée par plusieurs pour faire contrepoids à l'esprit du capitalisme, est généralisable à d'autres secteurs de la société que celle de l'informatique. De manière plus radicale, Jody Dean, elle explique dans ses bouquins récents comment l'échec politique, justement, ça revient un peu à ce que Eric disait tout à l'heure, l'échec politique des mouvements anticapitalistes contemporains, puis elle donne un exemple en tant qu'américaine des mouvements Occupy, repose sur une mécompréhension de la logique culturelle du capital à l'époque néolibérale. Elle va dire que les idéaux démocratiques, de liberté, de participation, de délibération, se trouvent à nourrir la logique d'accumulation d'un capitalisme qu'on pourrait appeler cybernétique. Je pense que Stéphane Haber dit la même chose dans sa critique d'Habermas, effectivement. Donc, l'échec des mouvements anticapitalistes repose, on pourrait dire, en partie sur le fait que souvent qu'ils se retrouvent sur le même plan ontologique que le capital. On pourrait dire que le refus de la représentation, la forme d'organisation en réseau, Hein? L'idée de spontanéité puis d'autorégulation se retrouve finalement autant dans la pratique du capitalisme néolibéral que dans les mouvements qui prétendent s'y opposer. C'est pourquoi d'ailleurs Dardot et Laval vont dire en l'éthique hacker qui est mobilisée par plusieurs de ses auteurs constituerait selon eux une actualisation des idéaux du libéralisme moral et politique le plus traditionnel, beaucoup plus qu'une préfiguration d'un pseudo-communisme informationnel. Justement, à ce titre, je pense que malgré plusieurs de ses défauts, le dernier ouvrage de Dardot et Laval, qui s'intitule « Commun », est de montrer que le principal point aveugle, on pourrait dire, de plusieurs théories critiques contemporaines, demeure le concept d'institution, hein, qui est souvent conçu de manière péjorative. Hein. Donc, si on réfléchit notamment dans une perspective du rôle des communications dans le capitalisme, hein, Raymond Williams disait que le mot « communication » et le mot « communisme » tirent leur origine de la même racine latine qui est « communis », qui veut dire « quelque chose qui est partagé par plusieurs ». Mais il faut rappeler que, justement, ce commun n'est pas une chose qui existerait en elle-même. Hein. Il s'agit plutôt d'une pratique politique qui est impossible. Donc, contre les approches qu'on pourrait appeler naturalistes puis spontanéistes, qui voient dans le commun un processus qui émergerait spontanément, il faut voir que le commun n'est pas possible sans institutions, hein, qui viennent régir finalement l'usage et la pratique de mise en partage du commun, bref, sans une, comme je disais tout à l'heure, une politique du commun. Hein. On peut dire en ce sens-là qu'il n'y a aucune chose ni activité qui sont dans leur nature même commune. Hein. Par exemple, hein, si on s'intéresse aux formes contemporaines de marchandisation de l'information puis de la connaissance, il faut rappeler qu'au contraire des économistes classiques qui, par exemple, soutenaient que le savoir est un bien public de par sa nature. Hein, en raison, souvent on rappelle qu'il s'agit là, il s'agit d'un bien public par nature, en raison de son caractère non rival et non exclusif. Hein. Il faut rappeler qu'en fait, au contraire de cette approche naturaliste, hein, que rien n'est en soi une marchandise. Hein. Sa production, sa circulation et sa consommation sont plutôt le résultat d'un ensemble de règles, de normes et de valeurs instituées. Hein. En ce sens-là, le commun doit être institué. C'est une institution qui régule la pratique sociale. Donc, au regard de l'actuelle dynamique d'accumulation du capital qui repose sur une logique de destruction des communs, notamment ceux de la nature, ceux de la connaissance, ceux de la culture, et où au plan politique est en train de s'ériger ce que certains vont appeler une forme de néoconstitutionnalisme, hein, qui s'érige par-dessus les souverainetés populaires, la réflexion de Dardot et Laval sur le commun permet de relancer la réflexion sur ce qu'on pourrait appeler un renouvellement du socialisme, ou du moins penser des possibles post-capitalistes, à partir des pratiques existantes qui pointeraient justement vers d'autres manières d'être dans le monde, pour revenir dans les formulations philosophiques. Hein. On peut dire que l'échec ou l'écueil de plusieurs théories contemporaines qui portent sur les biens communs, ben, ils résident justement dans leur incapacité à penser cette idée du commun comme un principe normatif qui serait en mesure de s'universaliser. Puis ça pose la question dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils pourront s'appliquer à la société dans son ensemble. En ce sens-là, il y a la théoricienne marxiste Radhika Desai qui dit qu'historiquement, il faut rappeler que les biens communs, ils n'ont jamais été la propriété de tous. Hein? Ils se définissaient plutôt par des arrangements institutionnels qui accordaient des droits à certains et qui en excluaient d'autres. Donc, en ce sens-là, il est nécessaire de ne pas réifier cette conception du commun comme une chose, mais plutôt de le penser comme un principe normatif qui permettrait de repenser la catégorie du public, hein, ou du social même, c'est-à-dire ce qui est ouvert à tous et non seulement à quelques-uns. Donc, il ne s'agit pas... Puis, en ce sens-là, la réflexion sur le post-capitalisme ne consiste pas à dissoudre, finalement, toute forme d'institution politique, ni de détruire toutes les médiations politiques et juridiques comme si, au final, le peuple pouvait, de manière immédiate, coïncider, par exemple, avec l'État ou avec la Constitution. C'est le propre des travaux de Solange Mercier-Rosa qui a dépoussiéré les vieux textes des manuscrits 43 de Marx, qui montrent que, justement, il y a une possible pensée politique chez Marx qui viserait à penser cette idée d'institution politique post-capitaliste. Donc, s'il s'agit d'instituer, bon, on pourrait dire, une politique du commun qui serait une norme de régulation de la société dans son ensemble, il reste en grande partie que ça demeure un écueil, c'est-à-dire de savoir comment ces pratiques locales pourront-ils être en mesure de s'universaliser. C'est-à-dire, le danger, selon moi, est que ces différentes expérimentations-là peuvent se résumer à une forme de, je comprends plus, un socialisme de jardin communautaire, puis pas être capable de dépasser, au final, les frontières du jardin. Hein? Puis, en ce sens-là, on peut dire que c'est, selon moi, les principaux écueils, bon, des thèses de Dardot-Laval, qui nous montrent difficilement les directions pour savoir comment pourrait se rendre possible cette universalisation. Il reste que, bon, justement, pour conclure, on pourrait dire que la finalité d'une politique du commun devrait viser la transformation des significations qui sont au fondement de l'institution imaginaire de la société, pour reprendre les thèses de Castoriadis à l'époque. Hein. En ce sens-là, le commun, on pourrait dire qu'il correspond à une praxis, hein, qui est fondée sur une co-obligation que se donnent les membres d'une communauté politique à suivre les règles qu'ils se sont données. Donc, contre la dynamique productiviste du capital qui détruit le monde commun, un type de politique, on pourrait dire, fondée sur le commun, devrait nécessairement viser à penser l'autonomie comme auto-limitation. C'est-à-dire, devrait être en mesure de penser comment substituer les médiations réifiées du capitalisme, les médiations non réfléchies, hein, qui sont induites par la valeur, la catégorie de la valeur dans le contexte contemporain, par des nouvelles médiations politico-institutionnelles qui permettraient de penser une autre forme de rationalité que la raison marchande. Hein. Le commun compris comme un principe institutionnel pourrait donc nous inviter, du moins ouvre la porte à une réflexion sur un possible horizon post-capitaliste qui ne serait pas pensé justement dans une perspective strictement économiciste, ni hein, sous la forme actuelle qu'on retrouve beaucoup dans les cultural studies, ou du moins depuis leur inspiration très post-modernisante, comme un particulariste qui est incapable hein, de s'universaliser, mais plutôt en termes, je dirais, sociologique, c'est-à-dire comme une réappropriation par la société d'une puissance étrangère sur laquelle elle a perdu prise. Puis juste pour rappeler qu'on retrouvait chez Marx sous le terme de « Gemeinwesen », l'idée hein, d'un commun, c'est-à-dire d'une nature commune à l'être humain, qui, au final, est de plus en plus remise en question dans les évolutions contemporaines du capitalisme. Je pense à l'heure actuelle, dans le contexte où les élites économiques sont plus ou moins affolées par un problème qui est celui de la stagnation séculaire. Laurent Sommer l'a souligné, puis il y a beaucoup de débats dans les économistes néoclassiques, c'est-à-dire qu'on aurait un capitalisme en croissance. Puis donc, la seule idée qui semble possible à l'heure actuelle pour revivifier les lieux d'accumulation du capital, c'est ce qu'on parle au Forum économique mondial, c'est la quatrième révolution industrielle. La quatrième révolution industrielle, c'est la modification de la nature par des procédés biogénétiques, puis de l'être humain également. Donc, dans la réflexion sur ça comme nouvelle dynamique d'accumulation du capital, l'horizon, c'est la post-humanité. Donc, en ce sens-là, il serait peut-être intéressant de dépoussiérer certaines notions qu'on retrouvait chez John Marx, notamment, bon, je disais Gemeinwesen, mais celle d'être générique aussi, hein, dans la mesure où on est en train de transformer la nature de l'être humain lui-même, puis, la, puis sa, sa nature extérieure.
C'est parfait. Écoute, merci Maxime en fait pour cette présentation. Avant de donner la parole à Lysiane, en fait, je voudrais juste corriger une erreur parce que effectivement ta notice biographique a bien été tronquée. Ah. Donc je voudrais quand même ajouter que Maxime est également l'auteur de La tyrannie de la valeur, débat pour le renouvellement de la théorie critique, donc publié aux éditions Éco-Société en 2014, et son plus récent essai intitulé La révolution culturelle du capital. Le capitalisme cybernétique dans la société globale de l'information, qui vient d'être publié, donc encore une fois, aux éditions Éco-Société, donc en 2016. Alors, je te laisse la parole, Lise.
Oui, merci Maxime pour cette présentation extrêmement dense. Du coup, je vais essayer d'insister sur quelques points qui, moi, m'ont particulièrement interpellée. Tu as mentionné, du coup, le concept marxien d'aliénation et... Donc, concept hein, qui avait été défini et qui avait été relu, hein, selon certaines relectures des manuscrits de 1844, dans ces deux dimensions. Hein, donc, comme je l'avais rappelé tout à l'heure, aliénation objective et aliénation subjective. Et à la lecture de tes textes et à l'écoute de cette conférence, étant donné que je n'ai pas pris connaissance de l'ensemble de ton dernier ouvrage, donc j'en ai peut-être loupé une partie et j'en suis désolée si tel est le cas, j'ai eu l'impression que tu insistais peut-être davantage sur la dimension de l'aliénation objective et moins sur la dimension de l'aliénation subjective. Et du coup, j'aurais aimé savoir comment toi-même, dans ton travail, tu envisageais l'articulation entre les deux. Ça, c'est une première question. Et ensuite, je vais passer rapidement sur les deux autres questions pour ne pas monopoliser la parole. Alors, deuxième question qui porterait davantage hein, sur le commun, justement, hein, et qui va rejoindre hein, ma troisième question au final. Hein, Dardo et Laval ont publié une tribune il y a un mois hein, dans Le Monde hein, et qui insistait hein, sur un des écueils hein, qui est rencontré notamment... en vue de mettre en œuvre une politique du commun hein, qui m'a particulièrement interpellée et je trouvais ça particulièrement pertinent parce que c'était un peu la lecture que j'avais eue du mouvement Nuit Debout et de certains de ces écueils, hein, donc de la difficulté hein, de se défaire de l'évidence d'un même monde donné à tous hein, qui est activement fabriqué et entretenu par tout un système de pouvoir à l'échelle mondiale et qui sert à justifier un large consensus en faveur du néolibéralisme et donc hein, qui constitue un obstacle à inventer de nouvelles formes de vie. Et pour moi, ça faisait hein, directement écho hein, à ce qu'on appelle souvent, hein, ce que tu as nommé tout à l'heure, hein, donc un particularisme qui est incapable de s'universaliser. Et je voulais proposer une autre lecture, en fait, hein, des luttes que tu nommes identitaires, que j'aurais tendance davantage à considérer comme culturelles. La lecture que j'en ferais, hein, et qui est une lecture également qu'on trouve chez Honneth, c'est tout d'abord que ces luttes s'ancrent hein, dans des revendications qui sont des revendications initialement socio-économiques, même si effectivement... Elle rentre hein, dans l'écueil, dans le même écueil hein, qu'une certaine critique marxiste traditionnelle, hein, qui est celle de la distribution des pouvoirs et des richesses. Donc ça, on est d'accord là-dessus. Elle loupe quelque peu sa cible au niveau économique. Mais si on prend, par exemple, hein, les luttes pour les droits les luttes pour les droits des gays et des lesbiennes, notamment, qui se fondent hein, sur la lutte contre le sida, initialement, donc qui est une réappropriation de ce que Achille Mbembe nomme notamment le nécro-pouvoir, hein, donc la capacité de vie ou de mort de par l'accès aux médicaments. À l'époque, on rappelle quand même que le sida était une épidémie, même si ça semble moins flagrant de nos jours. Eh bien, ma question serait la suivante. Hein, comment finalement intégrer dans cette réflexion hein, ce qui semblerait poser problème à une politique du commun, c'est-à-dire se défaire hein, de cette vision d'un monde qui serait... donné à tous hein, avec exactement les mêmes chances d'accès et d'égalité hein, et Honneth le souligne d'ailleurs hein, dans la réification à hein, son ouvrage de 2005 que le capitalisme hein, vient justement hein, entraîner une prolifération hein, de ces relations hein, instrumentales justement, donc une pénétration finalement hein, des luttes culturelles et identitaires par le capitalisme hein, elles ne sont pas exclues hein, finalement des modalités instrumentales du capitalisme, mais donc je prends un petit peu le problème à l'inverse hein, par rapport à toi, c'est-à-dire pas une en fait les particularismes qu'on peut lire actuellement, hein, la différence, hein, cette revendication de la différence qui est vue comme telle, résulterait davantage, selon moi, hein, d'une pénétration des luttes culturelles et identitaires par le capitalisme, hein, au même titre que l'ensemble de la société, et pas, en fait, ce n'est pas la différence et l'affirmation d'une différence qui, en soi, porterait problème davantage qu'une pénétration par les mécanismes du capitalisme, une instrumentation.
Ouais.
Voilà, ouais. Exactement. Ouais. Donc du coup, hein, ma réflexion justement consisterait à demander comment, hein, finalement, hein, d'une certaine manière, mettre en perspective ces expériences de domination spécifiques avec un ceux plus généraux des formes économiques du capitalisme dans sa forme actuelle.
C'est ça ?
Oui.
C'est quand même beaucoup.
Ouais.
Ben, je vais partir de la fin puis je vais remonter. Bon, en tout cas, je vais essayer de répondre à tout. Ben, sur ta dernière question, effectivement, l'idée du commun, puis ça dépend tout le temps des conceptions qu'on en a. Mais moi, de la manière dont je le vois, elle n'implique pas la destruction de la différence ou l'homogénéité. Parce que ben, si on regarde justement comment Arendt le pense, donc commun, il pense monde commun, c'est la condition de possibilité du politique, donc du dissensus. Puis à l'heure actuelle, ce qu'on peut observer, au final, c'est l'enfermement dans des bulles. Où il n'y a plus de langage commun entre les différents particularismes. Puis on peut dire, en ce sens-là, il s'agit là d'une instrumentalisation par le capital de toutes les formes de particularisme qui se referment sur eux-mêmes. Puis on peut dire, les communautés virtuelles étant un exemple, donc même que justement, le type là, de Zuckerberg, il a écrit un manifeste pour la reconnexion du monde la semaine dernière, tout en voyant qu'il était tout à fait tributaire, participant de cette logique-là. Ça m'apparaît complètement absurde. Mais en ce sens-là, sur les luttes particulières, il me semble que, a priori, il faut déjà qu'il y ait un langage commun, pour ouais, un espace commun, une police, pour que puisse se jouer le dissensus qui, à l'heure actuelle, est à se détruire, à se dissoudre. Puis ça m'apparaît comme étant fondamentalement problématique. Puis, j'allais voir cette semaine le film, là, des deux types là, sur les révolutions, ceux qui font les révolutions à moitié. Ah ouais. Mais il y a la scène finale, est assez, je ne veux pas, pour ceux qui ne l'ont pas vu, brûler le punch, mais ça manifeste selon moi quelque chose d'une forme d'autisme dans nos sociétés contemporaines où on a deux bulles fermées. Hein, il n'y a plus de dialectique possible. Il y a deux mondes purement auto-référentiels, purement fétichisés, on pourrait dire réifiés, au sein duquel il n'y a plus de dialogue possible. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'articulation politique, dialectique, de conflit. Hein? Il y a une négation du conflit dans, dans l'articulation du monde actuel qui m'apparaît problématique. Puis c'est pour ça que, avant qu'il y ait des possibilités de lutte, finalement, de dissension entre des différences, ça prend déjà au départ un langage commun. Donc, le commun, puis du moins, si on le pense en termes politiques, notamment chez Arendt, ben, ça n'implique pas la différence. C'est le lieu partagé qui permet justement l'articulation de ces différences-là. Cela dit, sur la question de l'instrumentalisation, justement, des luttes culturelles ou des luttes identitaires, etc., mais je pense qu'il y a eu au sein, bon, à la fois de la théorie et de la pratique, de gauche depuis les années 70, un problème de... Puis ça, Nancy Fraser, elle montre bien de critique au départ qui était systémique, c'est-à-dire qui portait à la fois sur les enjeux politiques, culturels et économiques de manière unifiée, puis qui ont été par la suite scindés, puis effectivement, propre peut-être à une nouvelle gouvernementalité que le capital a instrumentalisé, en disant on va vous séparer en différentes luttes, donc une critique unifiée était plus possible, ce qui a permis l'instrumentalisation justement des différentes luttes particulières qui jouent le jeu finalement de la reproduction de la société telle qu'elle est. Pour ce qui est de la question de l'aliénation objective et subjective, ben, en fait, moi je la vois comme étant liée, c'est-à-dire ce que j'ai essayé de présenter aujourd'hui, essayer de montrer ça, c'est-à-dire l'aliénation a souvent été pensée d'un point de vue purement, dans certaines lectures, dans les lectures beaucoup dominantes, d'un point de vue seulement subjectif, c'est-à-dire, puis si on retrouve ça même dans l'école de Francfort, puis depuis Lukács aussi, c'est-à-dire on a confondu beaucoup réification et objectivation. Hein? Donc, il s'agissait de libérer la subjectivité de l'objectivité. Hein, c'est, on pourrait dire, c'est beaucoup la manière dont on a conçu l'émancipation à partir des années 60-70, alors que tout ça doit être pensé dialectiquement, c'est-à-dire que le sujet ne peut exister sans un objet. Donc, il ne faut pas justement confondre la catégorie de la réification avec celle d'objectivation, de l'objectivité sociale. Donc, on pourrait dire à une dynamique hein, purement objective, qui nous apparaît objective, parce qu'on est tout le temps dans des modes, de, comme parler comme Haberde, parce qu'on parle de puissance détachée, ce n'est détaché qu'en apparence dans la mesure où c'est notre pratique qui nourrit la dynamique d'autonomisation. Le pendant de l'aliénation objective est nécessairement l'aliénation subjective. Puis là-dessus, moi, je m'appuie beaucoup sur les travaux de Fishback, où il dit, au final, l'aliénation, hein, il faut se rappeler qu'elle n'est pas nécessairement contraire à la liberté. C'est une thèse forte. C'est-à-dire, la liberté telle qu'on la conçoit de manière dominante dans les sociétés modernes, dans l'idéologie libérale, c'est-à-dire la capacité de se débrancher, de se délier, de se détacher des autres, hein, elle est la manifestation subjective de l'aliénation objective. Hein. C'est-à-dire, puis là, ça c'est une thèse forte, ça veut dire que beaucoup de pensées critiques contemporaines ont intériorisé l'hégémonie de la pensée libérale en ce sens-là, puis ont concédé énormément à la question, au concept de liberté aux libéraux. Hein? Donc, le néolibéralisme, en ce sens-là, a été une grande victoire hégémonique. Puis ça, les thèses de Stuart Hall, à l'époque, sur le libéralisme, le monde, qui ont réussi à s'approprier le concept de liberté, alors qu'il y avait une signification oppositionnelle à une autre époque. Une liberté qui était conçue politiquement, puis on pourrait dire collectivement. Puis tant et aussi longtemps qu'on en reste à une conception de l'émancipation subjective, on est foutu parce que ça participe pleinement, puis même sans même s'en apercevoir, à la reproduction, on pourrait dire, du capitalisme. Tant qu'on n'aura pas une conception de la liberté qui pense la contrainte, c'est assez paradoxal, mais tu retrouves ça dans des pensées comme Castoriadis. Il dit finalement, la condition de possibilité de la liberté, c'est la contrainte. C'est la contrainte qu'on se donne librement. Hein? C'est ça, surtout dans le contexte où la principale crise à laquelle on va faire face, c'est la crise environnementale. Il faut redéfinir la liberté comme étant une capacité de s'auto-limiter. Hein, puis la limite va devenir l'enjeu politique, c'est-à-dire qui est-ce qui va se limiter? Est-ce que c'est nous-mêmes qu'on va choisir librement de se limiter ou on va se faire imposer les limites par l'overclass qui va pouvoir jouir, elle, sans entrave de sa liberté libérale? Puis je pense que là, la question, justement, ben, ça rejoint les deux. Hein, les deux questions se rejoignent parce qu'au final, je pense qu'il y a eu beaucoup d'abdication de la part... De la théorie critique en général à l'idéologie libérale. Puis ça, là-dessus, tu parlais un peu de Negri, mais Negri m'apparaît comme étant assez représentatif de ça. C'est-à-dire une conception très purement libérale de la liberté. Il n'y a pas. Je ne vois pas en quoi ça s'oppose à ce qui est actuellement.
Oui. Oui, tu parles de la fin du monde, mais justement, ça me fait penser, il y a plusieurs personnes qui amènent qu'avec les algorithmes, la reproduction humaine, il y a une forme de récupération du concept de fin d'histoire de chez Marxisme, ouais. Parce que c'est aussi Marxisme, c'est toujours la fin de toute forme d'exploitation, ouais. Chez Marxisme, ben, avec la société actuelle, c'est juste la fin de toute forme d'évolution. Ouais. En même temps, ça amène une forme de quatrième révolution industrielle, ouais. Donc je me demandais comment les deux pouvaient se combiner ou pas, puis aussi ouais. Ma deuxième question, plus un commentaire sur la question du langage commun pour le particularisme versus l'universalisme. Historiquement, les luttes féministes, antiracistes, etc., se sont toujours collées au langage des luttes majoritaires, souvent axées vers les luttes économiques, et qu'au final, ça amène des problèmes et des avantages, comme par exemple, t'es plus écouté, c'est un langage qui est facile à comprendre, mais tu peux être plus facilement récupéré, même à l'intérieur des luttes, et marginalisé par ce phénomène. Donc, c'est pas tant une solution au langage commun, puis aussi, on peut voir que chaque forme de lutte globale, comme par exemple le postmodernisme, le queer, le marxisme, le féminisme matérialiste, le libéralisme, le féminisme libéral. Donc, je sais pas à quel point ça peut vraiment aider à avoir une prise en compte du parti anarchiste. Puis, voilà.
Ben, ouais, ben la question de la fin du monde, en fait, c'est effectivement tout à fait similaire aux thèses de Fukuyama sur la fin de l'histoire. Il faudrait postuler cette espèce de ressurgence contemporaine sur la fin du monde telle qu'on peut l'observer dans les films de zombies ou peu importe. Effectivement, c'est une acceptation des thèses de Fukuyama qui dirait on est arrivé à l'apogée de l'humanité, la démocratie de marché, la démocratie du marché. Mais effectivement, la quatrième révolution industrielle, elle vient, puis là, Fukuyama là-dessus est très conservateur parce qu'il dit on a un petit problème là. Parce que là il vient jouer le rôle des défenseurs des humains contre les post-humains. Mais il s'agit là d'une idéologie, de toute façon, qui postulerait qu'il n'y a plus de contradiction. Puis il me semble qu'à regarder l'actualité contemporaine, actuelle, ce qu'on voit dans le monde politique actuel, le système est bourré de contradictions, puis même les élites en prennent conscience. Mais ce qui m'apparaît problématique à l'heure actuelle, c'est que l'articulation des luttes politiques, si on regarde ce qui se passe aux États-Unis, ce qui s'est passé en Grande-Bretagne également, l'espèce de montée du populisme, c'est une espèce de lutte de classe mal articulée politiquement, parce que les luttes politiques commencent de plus en plus à s'articuler, c'est-à-dire dans une logique ceux d'en haut contre ceux d'en bas. Mais ça peut prendre une forme d'extrême droite comme d'extrême gauche. Mais ça montre qu'il y a des contradictions. C'est clair que le système lissé n'est pas aussi lisse qu'il apparaît. Pour la question du langage commun. Mais en fait, le politique, ça implique a priori qu'il y ait une police. Mais à l'intérieur de celle-ci, il doit y avoir dissension. C'est-à-dire, sinon, il n'y a plus de politique. Il n'y a que, justement, que de la police, pour parler comme Rancière. Donc, dans ma conception du politique, ça ne peut pas être l'homogénéité, parce que l'homogénéité, c'est-à-dire, implique finalement la fin du politique. Puis c'est ce qu'on assiste à l'heure actuelle, selon moi, les mécanismes de gestion actuels, algorithmisés ou appelons-le comme on veut, sont purement des logiques de dépolitisation, c'est-à-dire qui empêchent finalement le dialogue, le discours, le dissensus. Puis c'est ce qui est d'autant plus problématique parce que, bon, on pourrait dire que le système se nourrit de cette espèce de dissolution de la société, au final, en un système. Je ne sais pas comment... Tu sais, ce passage à la société au système. Par rapport à ça, ce qui me chagrine, ce qui me fait le plus peur, c'est que c'est le populisme de droite qui tend à monter en puissance dans ce contexte-là.
Des questions? Bon, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être s'arrêter là. Merci Maxime pour cette présentation.